I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. The material force of ideology makes me not see what I'm effectively eating. It's not only our reality which enslaves us. The tragedy of our predicament when we are within ideology is that when we think that we escape it into our dreams, at that point we are within ideology.
Usually we think ideology is as glasses which distort our vision. And to see reality, you have to take off the glasses. I like this refined reverse, that here on the opposite, it's the correct thesis of the film. Ideology is our natural state. And to see the truth, you have to put on the glasses.
Salut à toi, jeune prolétaire en quête de sens. Bienvenue dans Arbre Mécanique. Et bonjour Antonin.
Salut Pierre-Louis.
Et aujourd'hui, Manon n'est pas là. Voilà, pour cet épisode, elle n'est pas là. Mais on va se débrouiller bien sans elle, je pense.
On va essayer en tout cas.
On va essayer, ouais. On espère qu'elle ne vous manquera pas trop. Vous en faites pas, elle reviendra à l'épisode prochain. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un film de John Carpenter qui en français s'appelle Invasion Los Angeles, mais que, à partir d'aujourd'hui, de ce moment dans l'épisode, on va se référer à lui sous le nom They Live, le nom anglais, qui nous paraît beaucoup plus intéressant. Donc They Live, traduction Antonin.
Ils vivent.
Voilà, c'est un film de John Carpenter de 1988.
Mm-hmm. Inspiré
d'une nouvelle qui s'appelle 8 o'clock in the morning de Nelson Ray, qui elle date de 1963, voilà, et qu'on vous mettra en description de l'épisode si vous voulez la lire.
Oui, elle est très courte, hein. On vous invite à la lire, ça fait 8 pages.
Pourquoi on a choisi ce film? Alors, c'est un film qui est très important pour notre podcast, parce que c'est sans doute le film qu'on aurait dû faire en premier, en fait. Bon, après, on a préféré faire Breaking Bad, parce que...
SEO oblige, exactement.
Toi-même, tu sais, c'est plus vendeur. Mais non, c'est un film qui est très important, parce qu'il nous apprend beaucoup de choses sur la question de l'analyse des films. Curieusement, c'est pas spontanément la façon dont on interpréterait le film, mais nous, la façon dont on a choisi de le regarder, c'est comme ça. C'est en quoi il nous explique comment lire le réel, comment lire les choses et comment analyser les signes qui nous entourent. Et c'est pour ça que ça nous paraissait important à aborder dans un podcast qui se destine à analyser la culture populaire et analyser ses signes et ses symboles.
Oui, et à former des jeunes analyseurs, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, mais transmettre les armes.
Alors, comment commence le film ?
Comment commence le film ? Le film commence sur les rails, dans une gare de fret. On voit apparaître un train de marchandises devant des graffitis qui représentent une ville.
Et qui disent donc « They live, we sleep », qui est la première image du film. Ouais.
Oui, c'est un graffiti qui montre une ville sale, dominée par la mort, la drogue, la corruption...
La ville étant Los Angeles, donc.
On ne sait pas. Elle n'est jamais nommée. On ne sait pas où on est.
Elle n'est jamais nommée dans le film, non. Mais bon, on sait que... Alors, c'est vrai que le titre français gâche un petit peu la chose. Parce
oui, effectivement, oui.
Mais oui, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais...
La ville n'est pas nommée.
Ouais, la ville n'est pas nommée. Ça pourrait être n'importe quelle ville des États-Unis ou du monde capitaliste, en fait, finalement.
Oui, bon, ce sont les États-Unis, quand même. Ça reste important, mais oui, on ne sait pas trop où on est. On arrive sur les rails... avec le gars, le personnage principal, qui lui-même n'est pas nommé dans le film, n'a pas de nom.
Il est nommé dans le générique, donc dans le générique, voilà. Il s'appelle Nada.
Il est crédité en tant que personne, en tant que Nada.
Donc par commodité, on va l'appeler Nada, mais il faut se rappeler également que lui non plus n'a pas de nom dans le film.
Oui, personne ne l'appelle, personne, ouais. Personne ne dit son nom.
Et alors, ce personnage, on va le suivre sa quête. Quelle est sa quête, en fait?
Donc, il nous est présenté comme un gars qui arrive avec tout ce qu'il possède sur son dos. Il a son sac de couchage et son barda. Ouais. Et il remonte les rails jusqu'à la ville. Donc, c'est un genre de vagabond qui n'a pas de nom, dans une ville qui n'est pas nommée non plus, et qui cherche un taf. Il va à l'équivalent de Pôle emploi, chercher un travail.
Et on là, lui dit, on n'a pas de travail pour vous.
Voilà.
Il va sur un chantier, on lui dit, on n'a pas de travail pour vous. Il va sur un autre chantier, on lui dit, on a peut-être un travail pour vous.
Voilà, on voit qu'il a des gros bras et on trouve un travail. Mais ce qu'on découvre, en tout cas, c'est que le pays est en crise. Lui, il dit qu'il vient de Denver, où 14 banques ont fermé la même semaine. Et un autre type nous dit plus tard que à Détroit, c'est les usines qui ferment. Donc on est dans une grosse crise économique et industrielle, où le travail est précieux.
Un peu comme la crise qu'on vit actuellement, celle qu'on a vécue en 2008, celle qu'on a vécue en 79. La crise.
C'est avec un grand C.
Est-ce que ce serait pas en fait la même depuis le début?
Ah.
Finalement.
Est-ce que ce serait pas la même? Ouais, c'est possible. Puisque donc le film est tourné en 88, la dernière année du deuxième mandat de Reagan, et très clairement, c'est ce qu'on appelle les Reaganomics, l'économie à la Reagan, qui est mis en cause ici. Donc, les Reaganomics, très vite fait, c'est un concept qu'on a encore, en fait, quand ils pensent de dérégularisation et de faire baisser les taxes pour les gens riches pour qu'eux-mêmes redistribuent généreusement la richesse. Tu vois.
Généreusement, très généreusement. Oui, en fait, on a un peu un tableau à travers la ville quand ils se déplacent. On a un tableau du néolibéralisme, c'est-à-dire à la fois le néolibéralisme en tant que politique économique, donc effectivement, destruction des services...
Public. On entend, à la télé, on entend qu'il n'y a plus de sous pour les allocs familiales, enfin, les food stamps, tu vois, les allocs nourriture, comme ils ont là-bas.
Les tickets de rationnement, ouais.
Oui, littéralement, les tickets de rationnement.
Les tickets resto, on va dire, pour être plus.
Ouais, correct. Un genre de. Il n'y a plus de sous pour ça. Il n'y a plus de sous, il n'y a plus de travail.
Donc extension du marché à tous les aspects de la vie. Du pays, et surtout néolibéralisme en tant qu'idéologie, c'est-à-dire chaque individu responsable de lui-même.
L'État est là pour t'assurer un accès à un marché libre, dont la concurrence est pure et parfaite, et après c'est toi en tant qu'agent rationnel, tu vois, c'est à toi de prendre les bonnes décisions et te remonter les manches, te serrer les bretelles.
Nada, a priori, donc, ce vagabond qu'on voit, il est l'individu néolibéral parfait, puisque... Il prend les bonnes décisions, il constate qu'à Denver, le marché a fait en sorte qu'il n'y ait plus de travail, donc il se déplace dans une autre ville pour essayer d'en trouver. Bon, voilà. Il est self-sufficient, il se suffit à lui-même, puisqu'il porte dans son sac tout ce dont il a besoin.
Il porte sur son dos, sa propriété, n'est-ce pas? Et surtout, il est l'individu parfait de ce système néolibéral, puisqu'il est tout seul. Il est parfaitement atomisé. Ouais. Il existe tout seul dans sa propre sphère.
Il n'a pas de famille, il n'a pas de cercle de solidarité, il n'a pas de communauté.
Il n'a pas d'attache, si tu veux. Il bouge avec le capital.
Un capital très modeste, du coup, mais qui est son petit capital d'auto-entrepreneur dont l'entreprise est d'assurer sa propre survie en vendant ses bras, en fait.
Son
corps et ses bras.
Sa force de travail, comme diraient certains. Absolument.
Bon, donc il est engagé sur ce chantier. Et sur ce chantier, il rencontre dans une scène dans laquelle la mise en scène est assez intéressante, il rencontre son premier ami, Frank, qui est un ouvrier sur le même chantier. Donc dans cette scène, on voit d'abord Frank qui regarde Nada, et donc il le regarde à travers des espèces de tiges en métal qui émergent d'un bloc de béton, vous savez, sur les chantiers. Je ne sais pas quel est le terme technique. Et donc comme il les regarde à travers ça, on a l'impression qu'il les regarde à travers des barreaux de prison. Donc c'est très intéressant, et donc c'est comme ça que les deux se rencontrent.
C'est aussi, il observe comme le spectateur d'ailleurs, que Nada a des sacrés gros bras quand même, puisqu'il se remonte pas seulement les manches, il enlève le t-shirt carrément, il est torse nu, et il tape avec un marteau, avec ses gros bras qui brillent dans la lumière du soleil et la poussière du chantier.
Et donc il se rencontre comme ça, et Nada lui dit qu'il sait pas où crécher cette nuit, et donc Franck, alors d'abord on a l'impression
qu'il dit pas, je te corrige, parce qu'il lui dit rien. C'est l'autre qui lui propose de l'héberger et de lui filer à bouffer parce qu'il voit qu'il est tout seul. Nada dit rien. Il compte sur personne, ok?
Ouais.
Mais l'autre lui offre quand même l'hospitalité. Il fait preuve de solidarité envers lui.
Ouais, alors il lui offre pas totalement l'hospitalité, en fait, puisqu'il lui propose pas de venir crécher chez lui. Enfin, si, Et en fait, chez lui, c'est pas un appartement, c'est pas une maison, c'est un camp de réfugiés, en fait.
Pas de réfugiés, c'est un bidonville.
Oui, bah, de réfugiés du capitalisme,
Ouais, ok.
de réfugiés de Denver, j'imagine, des gens qui sont venus de toutes les villes où les banques ont fermé.
Lui, il vient de Détroit, Franck, il dit. Là où les usines
ah
ont
oui,
fermé.
de Détroit, pardon, pas Denver, j'ai dit
Bah, ils
Denver
viennent de partout pour chercher du travail, mais en gros,
Donc, ça
voilà,
pourrait être Détroit aussi, ouais.
c'est un camp de sans travail. C'est un camp de sans argent. C'est un camp de rejet de la société. Et qui, moi, je trouve ça intéressant, bosse à les deux, là, ils travaillent à fabriquer les fondations de la ville même qui les, genre, mâchouille et qui les recrache.
Ils sont les petites fourmis qui. Et puis, pour moi, c'est quand même important que ce soit Los Angeles, parce que ce qu'on va voir après, c'est que Los Angeles est quand même la capitale de l'empire de la création des images,
Show business.
du show business, de la publicité, du cinéma hollywoodien. Donc, le fait que ce soit des fourmis dont le rôle est de créer les fondations de cette ville qui est entièrement
Cet empire
dédiée à
des
la,
images, ouais.
voilà, à la création des images. Et que eux n'y ont pas du tout part à cet empire, justement. Ils sont ceux qu'on utilise
Bah,
pour en
eux, ils
construire les
sont là et
fondations.
ils attendent que ça ruisselle, tu vois. Ils attendent
Ouais,
que ça. Ils sont en bas dans les fondations et ils attendent que ça ruisselle.
Bon, ben, donc en chemin pour aller vers ce bidonville, ils rencontrent un espèce de prophète de l'Apocalypse, un prêtre aveugle qui est sur un espèce de promontoire, sur un banc dans un parc.
Et qui prêche, ouais.
Et qui prêche et qui nous parle d'eux, donc du they, du them,
De ceux qui vivent.
voilà, ceux qui vivent, eux, ils, nos maîtres, nos propriétaires qui nous ont transformés en bétail, qui nous ont rendus incapables de voir la réalité de notre condition,
Qui nous maintiennent endormis. We sleep.
qui nous ont hypnotisés.
Et donc là, effectivement, on sent que Nada est un peu curieux de ce que ce vieux fou raconte. Vieux fou qui, comment dire, est pas un personnage exceptionnel dans les rues de Los Angeles. On imagine bien qu'il y a d'autres prêcheurs fous de l'apocalypse, mais celui-ci, on ne sait pas pourquoi, voilà, ça intéresse Nada ce qu'il dit quand même.
Et on va voir l'illustration directe de ça, de la population qui est endormie, quand on va rencontrer un homme dans la rue qui regarde la télé à travers la vitrine d'un magasin d'audiovisuel, et qui est totalement hypnotisé par les téléviseurs et qui n'arrive plus à bouger, il ne réagit plus, il est seulement happé par ces ondes, ce regard,
Voilà,
ces
il est
images.
absorbé par la télé et Nada manque de lui rentrer dedans, puisque le mec ne réagit pas quoi, à ce qui l'entoure.
Et donc ça nous introduit la télé qui est un des éléments centraux du film, qui est un des objets les plus importants, un des symboles qui revient le plus souvent dans le film. Puisque juste après, quand ils sont au bidonville, il y a cette scène où Nada regarde par la fenêtre d'un résident du quartier, le résident du quartier qui lui-même regarde la télé. Donc en fait, on a une espèce de mise en abîme de la télévision et de l'écran, c'est-à-dire que le résident regarde à travers une petite lucarne des ondes et des images qui lui promettent le plaisir, la sécurité, l'opulence à travers la publicité. Et puis Nada lui-même regarde à travers la lucarne qu'est la fenêtre, ce qui pour lui représente déjà une promesse de plaisir, de sécurité et d'opulence. Pour lui, rien que le fait d'avoir une maison et d'avoir une télé chez soi, c'est déjà une élévation de sa condition à laquelle il ne peut même pas rêver.
Et donc, on se retrouve par la fenêtre de notre propre écran à regarder Nada qui regarde le mec qui regarde l'écran. Et donc, on a
Ouais.
une drôle de sensation vertigineuse de
Ouais.
mise en
Et
abîme.
on se demande du coup, est-ce que nous-mêmes, on n'est pas regardé quand on est en train de regarder cet écran par d'autres qui nous regardent à travers un autre écran? On se dit,
Potentiellement.
voilà, jusqu'où ça va, jusqu'où ça va, cette
Peut-être
fois.
qu'il nous regarde, qui sait? Oui, je voulais juste ajouter que quand il arrive au bidonville, on demande s'il y a de la place pour lui. Et un des types qui est en train de réparer des chaises lui dit, Ah, c'est des outils que tu as dans ton sac, on a une place pour toi. Donc c'est pas juste, dans ce camp, on fait pas juste la charité, enfin, on doit aussi un peu mériter d'être
Ouais.
ici. Mais on observe aussi qu'il y a une église en face et que les gens de l'église donnent la soupe.
La soupe populaire, ouais. Donc eux, ils font la charité
Eux,
pour le
ils font la
coup.
charité. tout cas, ils ont l'air de faire la charité.
Mais juste avant, on a eu une discussion entre Nada et Franck, où ils affrontent leur vision respective de la condition ouvrière, de leurs propres conditions, et il y a comme un conflit de valeurs entre les deux. Franck, lui, il est plutôt mécontent avec le patronat, il a cette phrase « The golden rule, he who has the gold makes the rules », la règle d'or, celui qui a l'or fait les règles. Alors qu'en face, Nada, il est plutôt, il dit « I believe in America ».
Oui, et c'est le truc, c'est que Franck, il n'est pas content parce qu'il observe que les gens qui l'ont viré de son usine ont été sauvés par le gouvernement et ont quand même viré les gens. Donc il dit « Bon, il y en a quand même marre, à un moment, il va falloir mettre un coup de marteau dans une de leurs bagnoles de luxe ». Et là, direct, Nada lui dit « Wow, calme-toi, calme-toi. La violence, ça sert à rien. » Il dit « Moi, je crois à l'Amérique. Je crois en ses mythes. Je crois que c'est une terre d'opportunités. Je crois que c'est... Ouais. »
Si tu mets un coup dans une Porsche, qui te dit que ce sera pas la Porsche d'un prolétaire qui l'a économisé
Alors ça,
ça pourrait être ma Porsche. Ça pourrait être ma Porsche, tu vois. Potentiellement,
je sais pas, mais
une fois que j'aurai cru en l'Amérique suffisamment pour recevoir des gouttelettes de ruissellement dans mon plat, tu vois, peut-être que moi je pourrais m'acheter une Porsche. Et à ce moment-là, s'il y a un connard comme toi pour la défoncer, je serais pas content, quoi.
Oui, et puis après tout, c'est la propriété de quelqu'un, c'est sacré, tu ne touches pas à sa voiture. Si tu veux, si t'es pas content, tu débats avec eux, n'est-ce pas? Alors c'est pas ce que Nada dit, hein, c'est pas ce que Nada dit, là je satirise. Mais oui, on a un conflit. Il y en a un qui pense qu'à un moment il va falloir s'énerver, et l'autre qui dit non, il faut encore y croire.
Non, et puis le fait qu'il y en ait un qui s'énerve, c'est que depuis le début on parle de la télé, mais il y a une contradiction, un contraste irréductible entre ce que montre la télé, donc la promesse de sécurité, d'opulence, de bonheur, de satisfaction sexuelle, etc. Et puis la réalité...
Et puis la condition misérable des personnages, exactement. Ouais. Sans cesse, il y a une ironie entre ce que la télé dans le film montre et ce que le film montre dans ta télé.
Dans ta télé, qui peut être ton cinéma, mais oui, nous, on l'a regardé sur une télé.
Bah, on n'était pas là en 88.
Forcément, ça marche un peu mieux, ouais. Et alors, pendant que deux personnages sont en train de regarder la télé dans ce camp de réfugiés du capitalisme, il y a une émission pirate qui vient interrompre ce programme en cours. Donc ce flux, ce flot d'images et d'informations qui vient hypnotiser
spectateurs.
Les habitants du camp, les spectateurs, est interrompu par... Un
drôle de bec barbu avec des lunettes qui nous dit qu'il nous contrôle à travers les ondes. Mais c'est pas très clair puisque c'est entrecoupé de statique. On sent que le message, c'est un message pirate qui n'arrive pas à maintenir sa position sur les ondes.
Et alors Nada, comme il est très observateur, il remarque que ce discours de cette espèce de Slavoj Žižek fou qui parle à la télé est un peu le même discours.
C'est pas un peu le même discours. C'est-à-dire que sur, au fond du camp, il y a le prêtre aveugle du début, et en même temps que le gars parle sur la télé, on voit les lèvres bouger du prêtre qui dit la même chose en même temps. Tu vois, c'est exactement le même discours. Et donc forcément, là, il y a anguille sous roche, quoi. Il se passe un truc.
Et comme Nada, comme c'est un bon héros de cinéma hollywoodien, c'est-à-dire qu'il est d'abord caractérisé par son sens d'observation... Ben, il est d'abord caractérisé comme sa force, mais il est aussi astucieux. Il est,
Oui, on voit qu'il est observateur. Ce n'est pas juste une montagne de muscles. Il a aussi des yeux et il sait s'en servir. Il sait regarder.
Et donc, il se rend compte qu'il y a peut-être une activité un peu suspicieuse dans l'église qui est à côté du camp, en fait.
Oui, parce qu'on voilà, on voit ensuite le prêtre être ramené par un drôle de mec à l'intérieur de l'église. Et donc là, il se dit, ah oui, eux, ils sont en train de manigancer quelque chose. Ça m'intéresse.
Et donc il entre dans l'église, et là il tombe sur une discussion, donc il avait raison, effectivement le prêcheur et le gars à la télé sont en fait
de mèche.
La même organisation, ils sont alliés, ils disent la même chose, et il assiste à une conversation entre les deux qui est très intéressante parce que...
Il est caché hein.
Oui, il est caché pendant qu'il écoute la conversation, ouais. Mais les deux autres disent qu'ils ne peuvent pas lutter contre le signal parce que leur signal pirate est trop faible.
Voilà, le signal est trop faible, on peut pas avoir assez de temps pour dire ce qu'on a à dire, à chaque fois on est coupé. On n'a pas les armes pour lutter, pas comme ça en tout cas, oui. Y a un truc qui est très marrant, c'est qu'il se rend compte aussi que du coup l'église est une fausse église, les chants qu'on entend depuis l'extérieur c'est en fait un enregistrement. L'église est vide, et au fond de l'église il y a ces mecs qui ont monté un genre de labo, on sait pas trop quoi, mais...
Donc c'est une façade, c'est un faux semblant, c'est un simulacre.
C'est ça. L'église n'est pas ce qu'elle semble être, exactement.
Ouais, comme on va le voir dans le film, c'est seulement le premier de toute une série de simulacres. Et les deux sont en train de parler de la compétition de leurs ondes avec les ondes des adversaires.
Avec leurs ondes. Avec leurs ondes, exactement.
Voilà, leur avec une majuscule à l'heure.
Ou trois parenthèses.
Et donc il y a une compétition, en fait, ils sont en train de dire « Nos simulacres ne sont pas aussi puissants que leurs simulacres. Nous, on fonctionne aussi avec des simulacres, d'accord ? Ce qu'il faut, c'est voilà, tromper les gens, désigner pour mieux masquer, réorienter le regard des gens pour qu'ils regardent là où on veut qu'ils regardent. »
Ou tout simplement, notre propagande n'est pas assez efficace face à leur propagande.
C'est ça. Mais ce qui est intéressant, du coup, là-dedans, c'est que dans les deux cas, il s'agit de propagande. C'est un combat entre deux propagandes qui se revendiquent toutes les deux comme telles.
Oui, non. Non. C'est leur propagande à eux, elle n'est jamais désignée en tant que propagande. Elle apparaît sous la forme de pub, sous la forme de défilé de mode.
Parce que justement, elle est hégémonique. Et oui. C'est le propre de toute propagande hégémonique de ne pas apparaître comme propagande. C'est-à-dire que la propagande hégémonique, c'est simplement le réel. Voilà, c'est ce que tout le monde accepte. C'est ce sur quoi tout le monde est d'accord. Alors que la propagande qui n'est pas hégémonique, la propagande hérétique, contestataire, ça c'est de la propagande.
Dissidente.
C'est elle qui est, voilà, dissidente. C'est elle qui est désignée en tant qu'idéologie. La propagande générale, elle n'est pas désignée en tant qu'idéologie puisqu'elle est générale, puisqu'elle est acceptée par tous. Et donc là, il y a une notion dont on peut parler, c'est la notion du coup du combat culturel gramscien. Est-ce que tu peux expliquer
Oui, alors simplement... Gramsci, quand il gratte en prison là, dans ses cahiers, il dit qu'en gros, pour faire la révolution, il faut mener deux types de combats en parallèle. Il y a un combat organisationnel, politique, physique, quoi. Mm-hmm. Et il y a un combat culturel. C'est-à-dire que pour que les gens puissent s'organiser, il faut les abreuver de culture, alors, chansons, de films, de fiction, pour pouvoir leur mettre certaines idées dans la tête et les organiser, quoi, au préalable. Et que sans le combat culturel, ça sert à rien d'essayer de s'organiser politiquement.
Puisque les formes dans lesquelles on s'organise, si elles ne sont pas transmises par la culture, on ne les comprendra pas, en fait. On ne les acceptera pas.
Oui, et puis que, quelque part aussi, la culture, c'est une façon de les déguiser, hein, comme on est en train de voir. C'est une façon de faire passer la pilule, si tu veux, de mettre dans tes chansons, dans tes poèmes, des messages subversifs. De contestation. Sachant qu'il s'agit de lutter pour Gramsci, forcément, face à une autre culture qui, elle, comme on a dit juste avant, est hégémonique et domine tout dans l'esprit des gens et dans sa présence sur le marché.
Oui, et donc le combat est nécessairement asymétrique, en fait.
Oui.
Il n'est pas mené avec les mêmes moyens. La résistance dans son église n'a nécessairement pas les mêmes moyens économiques, humains, en termes de
n'a
ressources
pas le capital,
humaines.
Ouais.
N'a pas le capital pour mener ce combat...
Pour que la concurrence soit pure et parfaite, si tu veux, entre les deux messages.
Ouais. Et donc, il va falloir fourber, en fait. Il va falloir jouer stratégiquement de façon plus souterraine. Il va falloir se cacher. Il va falloir simplement frapper au bon endroit. Et donc, quelle est leur nouvelle stratégie ? C'est ce qu'ils appellent la lentille d'Hoffmann. Mm-hmm. Et c'est ce que découvre le héros après avoir entendu cette conversation, qui est, en fait, une paire de lunettes...
De soleil.
Qui est en train d'être manufacturé devant.
Ils sont en train d'en fabriquer des centaines, en gros. Ils tombent sur des caisses et il y a des centaines de paires de lunettes dedans. Et les mecs sont en train d'expliquer que vu qu'on peut plus lutter avec notre petit signal de merde, il va falloir passer à quelque chose de plus drastique.
Ils parlent d'organiser un réveil collectif, je crois.
Ils le disent pas en ces termes, mais c'est clairement, voilà, c'est clairement de ce de quoi il s'agit. Ils veulent balancer les lunettes dans la nature, en gros.
Et donc, ils découvrent ça. Alors pour le moment, donc, c'est la construction classique d'un scénario hollywoodien, c'est-à-dire que le héros d'abord constate qu'il y a un problème, et puis en premier lieu, il va refuser l'aventure, donc il s'en va de l'église, et il va en parler à Frank, qui, a priori, on pensait que Frank, tout à l'heure, c'était celui qui tenait le discours le plus radical, celui qui...
Bon, en tout cas, qui était prêt à passer à l'action, quoi. Qui était là, il en avait assez marre pour faire quelque chose.
Qui exprimait de la colère envers les capitalistes, qui disait qu'il fallait mettre un coup de pied dans tout ça, qu'il fallait rayer les Porsche à un moment, quand même, puisqu'il ne faut pas déconner. Et donc, il essaie de lui parler de tout ça en disant « il y a un truc bizarre qui se passe ». Et là, Franck, tout de suite, il exprime de la peur, il se sent plus en sécurité, et il sait bien que c'est dangereux pour lui d'aller là où Nada essaie de
l'emmener.
C'est dangereux pour lui de regarder un peu de ce côté-là. parce qu'il a un emploi, il a une famille à nourrir.
Oui, le peu qu'il a, il a peur de le perdre. Donc le peu qu'il a, son travail minable, il a une famille, mais qui elle est restée à Détroit, on comprend qu'il envoie de l'argent. Son travail et sa famille lui sert de collier, de laisse, l'empêche d'aller avec Nada foutre un peu la merde.
N'empêche ne serait-ce que de s'intéresser à ce qui peut bien se cacher derrière cette église.
Ça le paralyse en gros. Il est incapable de faire quoi que ce soit, même quand l'autre lui montre qu'il y a quelque chose qui se passe.
Et donc, bon, bah, dans la construction du scénario hollywoodien, bon, on peut faire un parallèle avec Star Wars, c'est-à-dire que la première fois que Luke rencontre Obi-Wan, Obi-Wan lui dit « tu vas devenir un Jedi, il faut que tu me suives », et puis il dit « non », il dit la même chose, il dit « non, j'ai une famille à nourrir, faut que j'aille... »
J'ai un taf à la ferme.
J'ai un taf à la ferme, etc. Et puis il revient à la ferme, et là, en fait, il est obligé d'aller suivre Obi-Wan dans son djihad cosmique, parce que il se rend compte que... la ferme a été brûlée par les flics. Et là, dans le film, c'est pareil. Le camp de réfugiés du capitalisme se fait démanteler par la police qui arrive avec
il y a une descente de flics.
Des bulldozers, des hélicos. Ils arrivent, ils tabassent tout le monde, ils rasent le camp. Bon, voilà.
Oui, mais on comprend bien qu'ils sont venus raser le camp pour choper l'église. On voit les mecs qui arrivent dans l'église et qui mettent les bandes jaunes là et puis qui se mettent à prendre possession du matériel pour fabriquer les lentilles, tu vois. Direct, il y a des mecs de la... comment t'appelles ça, police scientifique qui sont bouclent le périmètre. Donc on voit une grosse opération de police organisée avec voilà, plein de matos. Tabasser les pauvres du camp, mais surtout venir arrêter les mecs de l'organisation pirate.
Saisir le matériel et étouffer la rébellion dans l'œuf, en fait.
Voilà.
Et donc Nada est en spectateur face à cette scène.
Ah oui, il lui regarde, presque le sourire sur les lèvres, tu vois, comme un beau spectacle, tu vois.
Ouais, et puis il y a une scène du coup qui fait écho à une scène qu'on a vue un peu plus tôt où il y avait ce gars qui était pétrifié devant les télés.
Ah, il n'était pas pétrifié l'autre, il était absorbé.
Il était absorbé, bah, dans les deux cas il était passif en fait, il était, il ne vivait plus. Et donc là, il y a un autre gars qui est dans la même situation, mais là il est plutôt pétrifié par la peur.
Oui, il se cache. Il se cache et il peut rien faire pendant qu'on voit juste derrière le petit muret lequel il se cache, le prêtre aveugle du début et le Slavoj Žižek se faire tabasser par les flics.
Donc face à la pétrification de l'autre, face à son impuissance, c'est là que Nada s'active. Il était, comme on a vu avec Walter White dans Breaking Bad, il était passif, maintenant il va devenir actif. Maintenant c'est lui qui prend les décisions, donc il prend la décision de protéger ce gamin qui est pétrifié de peur. Voilà. Et donc maintenant, il devient agent. Il devient agissant dans l'histoire.
Bah voilà, il met ses gros bras au service de quelque chose. Il trouve quelqu'un pour qui faire la chose. Pour lui tout seul, on voyait bien que bon, bah, ça valait pas le coup, quoi. Puis tout à l'heure, il regarde comme un spectateur. Et là, il trouve ce gars pétrifié par la peur qui menace lui aussi. Enfin, qui lui aussi va se faire tabasser. Donc il se dit, bon, faut faire quelque chose quand même. Et il emmène le gamin dans un bâtiment à côté pour le cacher.
Donc ce qu'on constate, c'est que ce qui est nécessaire, en fait, ce qui a été nécessaire à cette activation de Nada, qui a priori nous paraissait un sujet bien obéissant du capitalisme néolibéral, quoi.
Oui, balèze, observateur et curieux, mais pas forcément
plein
à la dissidence.
Qui croit à l'Amérique et ses mythes, oui, c'était pas Joe le roi des Antifa, quoi, a priori. Et ce qui est suffisant pour activer sa résistance...
Nécessaire et suffisant, ouais.
Voilà, nécessaire et suffisant, c'est d'une part la curiosité, on a envie de savoir ce qui se cache derrière...
Ouais. Qu'est-ce qui se passe vraiment, ouais,
qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait, derrière toute la façade des choses qu'on présente. L'urgence, c'est-à-dire...
Ouais, c'est ça, j'ai plus de lit, j'ai plus d'endroit où crécher, j'ai perdu mon seul pote, hein, Franck, le seul mec que je connais. Il faut faire quelque chose maintenant, je peux juste pas rester là, quoi.
Et puis en dernier lieu, c'est une cause à défendre, c'est-à-dire qui est incarnée dans cette scène par...
Par n'importe qui, c'est ça qui est intéressant.
N'importe qui, mais là, en particulier dans cette scène, par ce jeune qui est pétrifié par la peur
et qui
décide
altruistement de protéger. N'importe qui, pardon, au sens où c'est un personnage qui n'a pas de nom, qui est littéralement un figurant, qui n'a pas de ligne, quoi. C'est n'importe qui. C'est juste celui qui est incapable, là, tout de suite. Moi, je suis capable et lui, il ne l'est pas. Et ça me suffit pour passer à l'acte.
Et donc, il faut pas simplement faire les choses pour soi, il faut faire les choses pour les autres. C'est ça qui est important.
Et
c'est que...
plus que pas forcément pour soi, c'est que pour soi, on ne fait pas les choses. On voit bien qu'avant qu'il trouve quelqu'un pour qui le faire, il fait rien.
Oui, tant qu'on est un individu atomisé avec aucune attache, aucun lien de solidarité avec quiconque, ben on est cette espèce de robot néolibéral qui ne fait qu'assurer sa propre subsistance, quoi. À partir du moment où on s'est attaché à une communauté et que cette communauté est mise en danger, communauté qui peut être juste aussi une personne, n'importe qui, comme tu dis.
Oui, c'est même pas un truc de communauté, on sait pas si le gars était dans le camp ou pas, c'est pas important. C'est juste que lui, il est incapable d'agir face à la peur qui le paralyse. Et moi, je peux. Alors moi, je le fais.
Et donc, la scène juste après, il y a cette nouvelle scène d'ironie intense où la télé qui est restée au milieu du camp...
Il reste une télé branchée dans les ruines du camp, et donc elle fonctionne.
C'est la seule trace d'activité humaine qui subsiste encore. Tout le reste n'est que ruine, tout le reste est mort, et il n'y a plus que ça qui est vivant au milieu du camp, et c'est un écran de télé.
Oui, c'est de la haute couture, et puis la voix off nous promet les Roaring 90s, tu vois, donc les années folles, comme les années 20, tu vois,
mais les années 90. Mais
la décennie à venir est pleine d'espoir, quoi.
Ce qui est aussi ce qu'on est en train de nous promettre, là, parce que, temporellement, alors si vous écoutez ça en 2024, ce sera du passé pour vous, on espère, mais... on est encore en plein pic de l'épidémie de coronavirus, et ce qu'on nous promet, c'est que juste après cette crise, ne vous inquiétez pas, on aura les Roaring 2020s, genre 100 ans après les années folles, ce sera les nouvelles années folles, après la grippe espagnole, le coronavirus.
Je te jure, crois-moi, voilà.
Je te jure, il y aura une renaissance artistique.
Ça va bien se passer. Voilà. Ouais.
Bon, surtout pour les bourgeois, on va pas se mentir, mais il y aura quand même une renaissance, t'inquiète. T'inquiète. On va
ça
bien
va
s'éclater.
Mieux, ouais.
On va enlever les masques, on va enlever les strings.
On va se refaire la bise, ça va être magnifique.
On va refaire une grosse partouze là pour bien compenser et ça va repartir, t'inquiète pas. Bon, mais maintenant que ce camp a été détruit, du coup...
Maintenant que le truc qu'il avait trouvé dans le camp, c'était un endroit où être. Je sais pas exactement comment le dire, mais c'était... Le gars... Nada, c'est un vagabond, tu vois, il n'a pas d'attache, il arrive par le train, il remonte les rails, il cherche du travail, il suit le courant, et il trouve cet endroit où être, où pouvoir exister, et on lui enlève directement. Donc maintenant, il n'a pas d'autre choix que de poursuivre le seul truc qu'il a trouvé, c'est-à-dire cette drôle d'opération pirate, tu vois, sa curiosité. Ouais. Et donc il décide d'aller chercher les lunettes, là où il les a vues, cachées dans l'église, derrière les murs.
Et donc il décide de mettre les lunettes... de regarder à travers les lunettes.
D'abord, il les prend. Il en prend une paire. Il prend une boîte et il la cache derrière une poubelle. Et ensuite, il prend juste une paire de lunettes et puis il se met à marcher dans la rue. Et on ne sait pas trop pourquoi, à un moment, il décide de les mettre.
Et donc là, le film bascule.
Complotiste, hein ? Théorie du complot, brûlé, hein ? Sur le bûcher, complotiste. Ils obéissent à des contraintes. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon.
Jean-Marie, oui. Vous avez une rage incroyable.
Ouais, je suis enragé, on nous prend pour des cons. Complotistes, hein ? Théorie du complot, brûlé, hein ? Sur le bûcher, complotistes.
Et donc, il met les lunettes, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que le monde est passé en noir et blanc, donc...
Et quand on regarde à travers les lunettes, le truc qui est frappant, c'est qu'on se rend compte que toutes les images, toutes les représentations, tous les symboles en cachent en fait d'autres. Là où tu penses voir la couverture d'un journal, où tu penses voir une publicité sur un bâtiment, toutes ces images sont en fait des injonctions à se conformer.
Qui, du coup, avec les lunettes, apparaissent...
sont révélées pour ce qu'elles sont.
Oui, et surtout, elles sont révélées comme ce qu'elles sont, en lettres noires, foncées,
en
claires,
gras,
en police impact, tu vois, de façon tout à fait limpide et...
nue.
Et nue, exactement. Mm-hmm. Et donc, quelles sont les injonctions ? On a obéir, obéi, si on les met à l'impératif.
Oui, c'est que de l'impératif, c'est que des injonctions. Oui. C'est obéi. Marie-toi, reproduis-toi. Pas de pensée indépendante. Consomme. Travaille 8 heures, joue 8 heures, dors 8 heures. Pas de pensée. Dors. Soumets-toi. Reste endormi. Achète. Regarde la télé. Pas d'idée. Honneur l'apathie. Coopère. Respecte l'autorité. Doute de l'humanité. Suis. Ne questionne pas l'autorité. Soumets-toi. Récompense l'indifférence. Pas d'imagination. Et sur l'argent, sur les billets, il y a marqué « Ceci est ton Dieu ». Donc bon, on peut imaginer qu'Anada, ça lui fait un petit choc.
Oui, ça lui fait un petit choc, oui. D'ailleurs, sur le commentaire vidéo, alors qui est très très, très, très sympa à écouter, où c'est donc John Carpenter, le réalisateur, et Roddy Piper, l'acteur principal, qui discutent, et ils sont bien potes. C'est très très... très très wholesome à écouter, et il lui dit, alors là je suis très fier de toi, parce que c'était son premier rôle à Roddy Piper, son premier rôle au cinéma.
Oui, il est catcheur lui à la base, c'est ça?
Ouais, il est catcheur, ouais. D'où ses gros bras. John Carpenter, il lui dit, là je suis très fier de toi, parce que pour un acteur débutant, t'as fait ce qui est le plus difficile d'habitude pour les acteurs, c'est-à-dire de réagir de façon sincère à quelque chose qu'on ne voit pas.
Oui, d'accord.
Qu'on ne voit pas précisément sur l'écran.
Oui.
Et oui, effectivement, du coup,
il est un peu choqué, quoi.
On voit son choc, on voit ouais. Sa révélation. Quoi.
Il est incrédule, donc il les enlève, puis il les remet pour être sûr que ce qu'il voit est bien ce qu'il voit. Et il commence à se balader dans la... C'est une papeterie, quoi, un magasin de journaux. Et il lit les différentes couvertures, donc de ce que je viens de vous énumérer.
Voilà, avec tous ces messages. Alors, donc, pour prendre l'analyse qu'en fait Slavoj Žižek, dont on a parlé un petit peu au début pour parodier un des personnages du film. Donc, c'est ce philosophe slovène ou slovaque ? Slovène.
Je dirais slovène, mais ouais.
Il paraît que ces deux pays, les services postaux de la Slovénie et de la Slovaquie se rencontrent tous les mois pour s'échanger les courriers qui ont été, envoyés l'un à l'autre, parce que ils sont presque pareils. C'est marrant.
Donc on a le droit de confondre, c'est normal.
On a le droit de confondre la Slovénie et la Slovaquie. Mais oui, Slavoj Žižek, son analyse de cette scène, c'est que, contrairement au régime totalitaire dans lequel... on a des injonctions comme ça, comme obéis,
soumets-toi.
Des injonctions, voilà, à l'impératif. On a de l'autorité.
Coopère, respecte l'autorité.
C'est ça. Et sous ces injonctions sont cachés en fait des appels au plaisir. C'est-à-dire, dans l'obéissance, il y a l'autorité, donc il y a un peu de jouissance sadique.
Bah, il y a une
récompense. Dans la guerre, il y a aussi la volonté de puissance.
Bah, il y a donc, la victoire dans la guerre.
Voilà, il y a la victoire. Mm-hmm. C'est-à-dire que les injonctions, enfin les appels au plaisir et les appels hédonistes sont
cachés oui, derrière des injonctions.
Derrière des injonctions. Et là, c'est l'inverse. C'est que on a des choses qui promettent la prospérité, la sécurité, la consommation,
le plaisir,
etc.
Et la liberté.
Et derrière sont cachées en fait des injonctions
à la conformité,
autoritaristes. Mmh. Exactement. Et donc c'est d'abord ce que montrent les lunettes. Les lunettes montrent ça. Et ensuite, quand il s'intéresse à certaines personnes, les lunettes aussi démasquent.
Il est en train de regarder les journaux, et puis là, il tombe sur un écran de télé où il y a un présentateur d'infos, un journaliste qui est en train de raconter sa merde, quoi, d'expliquer ce qui se passe dans le pays. Sauf qu'il a une drôle de tête quand tu le regardes avec les lunettes. Il n'a pas l'air tout à fait humain, disons. Il ressemble un peu à un monstre, à forme humaine.
Un extraterrestre.
Ouais, avec des gros yeux globuleux et comme si on lui avait arraché la peau, en fait. Et donc, en regardant la télé, en voyant ce journaliste qui est en fait un monstre, Nada se marre et dit « Putain, j'aurais dû me douter que ça ressemblait à un truc comme ça, en fait. »
Donc
ce que je trouve très drôle.
Oui, ce qui est très drôle, parce que ça veut dire qu'il avait déjà une idée.
Ça veut dire que tout le monde sait déjà que ça ressemble à une arnaque, ce machin.
Que voilà, les gens qui parlent à la télé, ils sont pas tout à fait humains. Ou en tout cas, quand ils nous parlent à la télé, c'est un peu bizarre. On n'a pas l'impression qu'ils sont tout à fait humains.
Ouais.
Et donc on se doutait un petit peu qu'il y avait anguille sous roche, quand même. On est surpris... On est surpris, la réaction qu'il a quand il met les lunettes et qu'il joue très bien, comme le dit Carpenter.
Oui,
il est surpris, il n'est pas choqué, il n'est pas vraiment choqué.
Quand il voit le mec à la télé, non, il n'est pas choqué, au contraire, ça le fait marrer, tu vois. Ça le fait rigoler, parce qu'il est là, genre, ah oui, non mais quand même, plus c'est gros, plus ça passe, si tu veux.
Voilà. Et donc, il démasque un autre gars qui est
un
autre client du marchand de journaux, ouais. Et il démasque ce gars-là.
Il le regarde et lui dit, mais alors qu'est-ce qu'il y a, tu t'es coupé avec le rasoir ce matin, puisqu'on a effectivement l'impression qu'ils n'ont pas de peau sur le bas du visage.
C'est ça.
Et l'autre le regarde bizarrement et lui dit, non mais vous n'avez pas d'autre chose à faire, quoi. Mm-hmm. Donc c'est un homme en costume avec un chapeau, bien habillé, qui achète son journal. Donc après, il fait le tour du magasin, et puis il regarde, il épie les gens, et puis il voit que parmi les gens, il y a quand même pas mal de ces mecs, quoi. Ils sont pas que à la télé, ils sont aussi parmi nous.
Ils sont parmi nous, et on a un peu l'impression qu'ils nous contrôlent, ces ils. Alors, on les appelle ils, c'est pas très commun, on leur donne jamais de nom dans le film. Moi, je te propose par commodité de les appeler les décideurs.
Ça doit être décideurs. Oui, ou les fascinateurs, comme dans la nouvelle, mais j'aime bien les décideurs. Oui.
Ouais, on va dire les décideurs, si ça vous va, les décideurs. Mm-hmm. Il va dans un magasin où il y a plein de décideurs, et puis il se fait remarquer.
Il y en a quelques-uns, ils ne sont pas en majorité, mais là, il commence à embrouiller une vieille décideuse, tu vois, et il commence à l'insulter, quoi, à lui dire, se moquer d'elle, quoi.
Qui a des manières très bourgeoises, très aristocratiques, ouais.
Ouais, il lui dit, mais t'as vu ta gueule, enfin bref, se fout de sa gueule, quoi. Mmh. Et elle réagit assez mal, et elle se met à parler dans sa montre, et elle dit, ah, j'en ai trouvé un qui peut voir.
Et là, il se retrouve encerclé, là, il se rend compte qu'en fait, que peut-être tous les clients du magasin, ils se sont soit transformés, ou soit il y en a plein qui sont rameutés pour l'encercler.
Ah, c'est surtout qu'il se met à être poursuivi par les flics, quand la meuf parle dans sa montre, il y a soudainement une patrouille de flics qui se ramène, et qui se met à chasser Nada. Qui l'emmène dans une ruelle, une impasse, quoi, un cul-de-sac. Voilà.
Ouais, comme des flics, quoi.
Comme des flics, quoi, si tu veux, oui. Et où ils menacent de le tuer.
Ils volent leur flingue.
Ils les tuent. Et ils volent leur flingue.
Ah, je savais bien que vous aussi, vous pouviez crever. Vous crevez just like us. Genre, vous crevez comme nous.
Vous aussi, vous êtes capable de mourir, oui.
Ouais. Et donc, d'un coup, il a plus très peur et il est...
Quand il voit que le monstre peut mourir,
de ce qu'il doit faire.
Ouais, voilà. Quand il voit que le monstre peut mourir, il a plus aussi peur. Quoi.
Il a plus aussi peur. Et maintenant, il est investi d'une mission, c'est que il doit les tuer. Il doit aller les tuer maintenant. Il a vu ça. Il a vu que les monstres qu'ils étaient. Il faut tuer les monstres. Donc, il prend le flingue. Il va
Il commence par prendre un flingue. Il prend aussi dans la voiture de flic, il y a un fusil à pompe et une bandoulière, du coup il s'arme, mais avant de faire ça, il épargne le deuxième flic qui lui n'est pas un monstre, qui avec les lunettes est un humain, et il lui dit, toi, va-t'en, sauve-toi, sauve ta peau. Et après il part en rampage, quoi. Il part dans une folie meurtrière, avec son fusil à pompe, sa bandoulière, et voilà, il décide d'aller dans une banque, hein, on ne sait pas
trop
pourquoi.
Il entre dans une banque, je suis venu ici pour mâcher du chewing-gum et botter des culs, et j'ai plus de chewing-gum, donc il commence à botter des culs, c'est-à-dire à flinguer tout le monde, en carnage. Et donc voilà, il y a un constat simple à faire à ce moment-là, quand je vois le monstre...
Je tue le monstre.
Exactement. Il n'y a pas à tergiverser, là. Il n'y a plus la place pour l'idéologie,
si tu
pour
veux,
la réflexion.
Voilà, la nuance a disparu. Ce qu'on a oublié de noter, c'est que les lunettes nous font tout voir en noir et blanc. Moi, je trouve ça intéressant. Oui. C'est-à-dire que la couleur elle-même est sujette à interprétation, tu vois. On ne voit pas tous les mêmes couleurs pareilles. Alors du coup, on enlève la couleur. C'est plus clair.
On s'est tous fait l'expérience de penser, de se dire, est-ce que le vert que je vois, c'est le même vert que toi, tu vois? Est-ce que toi, le vert, tu ne le vois pas finalement jaune? Ou une autre couleur que moi, je ne vois pas du tout, quoi.
Oui, et vu qu'il n'y a pas de réponse, on ne pourra pas savoir, mais qu'en plus, on sait qu'il y a des gens daltoniens, par exemple. Enlève-moi les couleurs. Enlève-moi la nuance. Rends-moi ça simple. Rends-moi ça clair. Rends-moi ça limpide. Mais tout en noir et blanc.
Et donc, une fois qu'on a épuré le regard, épuré l'idéologie, on se rend compte que les gens qui nous contrôlent, les décideurs, ce sont des monstres. Il faut les tuer, c'est tout. Il n'y a rien d'autre.
Il n'y a pas trop le choix, ouais.
C'est le mal, il faut l'éliminer.
Exactement.
Et surtout, les monstres, eux, on constate que... et d'ailleurs, c'est dit dans la nouvelle, dont est adapté le film insiste beaucoup sur ça, c'est que les monstres ont peur. À partir du moment où il y en a un qui peut voir, les monstres ont peur.
Oui. On voit bien la réaction de la vieille. Elle parle dans sa montre, elle dit j'en ai trouvé un, tu vois. Et alors, c'est ça qui est important, c'est quand je vois... Je tue le monstre parce que quand le monstre voit que je le vois, il me tue aussi, tu vois. Oui. Donc, c'est pas une question de plaisir sadique, c'est une question de survie. Parce que, il faut se rappeler que ce que les mecs prêchaient, les pirates et le prêtre fou au début, c'est que ils nous ont réduits en esclavage, ils nous ont transformés en bétail, qui se marient, qui reproduisent et qui consomment, tu vois. Donc, à partir du moment où tu captes ce qui se passe, Je sais pas, si t'es un peu humain, quoi, au fond, bah tu te dois de réagir, quoi, tu te dois de changer la donne.
Alors, la façon dont il s'y prend pour changer la donne est peut-être pas la plus efficace en premier lieu, parce que du coup, en fait...
Ah bah, il le fait tout seul. Prend son fusil à pompe, il rentre dans une banque, il bute tout le monde.
Il le fait tout seul, il le fait sans communiquer, sans s'organiser avec d'autres, pour voir si les autres voient un petit peu ce qu'ils voient aussi, tu vois. Et donc ça, c'est peut-être le stade un peu impulsif, quoi. C'est un peu le stade de...
Ah ouais, c'est pur réflexe de lézard, ouais, genre...
Et ça, le film te dit, c'est pas exactement ça que tu dois faire. C'est bien que tu arrives à cette étape-là, mais c'est pas encore ça qu'il faut faire.
Bah, le truc, c'est qu'il... Oui, parce que le film te montre très bien que, bon, après sa tuerie, il est traqué par tous les flics de toute la ville. Donc, il a littéralement aucune chance.
Il est traqué par tous les flics, et les gens qui étaient ses amis ne lui font plus confiance. Il est devenu un paria, un fou furieux...
Oui, bah attends, ça, il le remarque que quand il essaye d'expliquer à Franck...
Oui, ça c'est un peu plus tard, du coup. Non, mais,
c'est juste après que... C'est juste après, ouais.
Non, juste avant, il va se faire héberger chez la meuf qui prend en otage.
Donc, il est traqué par toute la ville, et donc il se cache dans un parking... Et il attend que quelqu'un vienne prendre sa bagnole, et là il tombe sur une jeune femme qui prend sa voiture, et il la prend en otage et lui dit « Vas-y, roule, emmène-moi chez toi, tu vois. »
Et donc quand ils sont chez elle, il essaie de lui expliquer ce qu'il voit. Alors on établit déjà que la meuf, elle travaille à la télévision. Elle, c'est pas une décideuse, c'est pas une alien.
Non, elle, quand il la regarde avec les lunettes, elle est humaine. Il vérifie quand même, tu vois, pour être sûr.
Mais elle lui dit qu'elle travaille à la télévision quand même, ce qui est une donnée importante. Mais il essaie de lui expliquer, et effectivement, il passe pour un fou furieux.
Voilà, il baisse sa garde 2 secondes, et il se dit « Ah, peut-être que je peux lui faire comprendre, tu vois, qu'il se passe un truc, et peut-être qu'elle, elle peut, genre, avec moi, on peut faire un truc. » Mais en faisant ça, il baisse sa garde, et la meuf le pousse par sa fenêtre. Directement, voilà. Sa première réaction, c'est de le pousser par la fenêtre, et de le faire tomber, genre, d'une vingtaine de mètres, une scène assez stylée, d'ailleurs, qui fait qu'il est séparé de ses lunettes. Ça, c'est important. Il oublie les lunettes chez la meuf.
Mais il les laisse chez elle quand même, ce qui du coup va... c'est un peu la métaphore, il a semé une graine chez elle. C'est-à-dire que sa réaction immédiate est une réaction de rejet, mais il a quand même semé la graine du doute dans sa maison en lui laissant les lunettes.
Il lui explique que il nous contrôle par les ondes, et quand tu mets les lunettes, tu vois des trucs de ouf. Et la meuf réfléchit pas, elle le pousse par la fenêtre, normal, depuis le début, il la menace quand même avec son flingue. Mais oui... Effectivement, il lui donne le truc de la curiosité de tout à l'heure, tu vois, il lui dit « Ah, peut-être qu'il se passe un truc », et puis il lui laisse les moyens de voir, enfin malgré lui évidemment, mais il lui laisse les moyens de voir. Et donc, il se retrouve blessé, tout seul à la rue, et là forcément, il essaye de revenir chercher la seule personne qu'il connaît, son seul ami, Franck.
Et alors Franck, c'est intéressant parce qu'il est au courant du massacre que l'autre a perpétré dans la banque.
Ah bah oui, c'est à la télé partout.
Les décideurs ont décidé de... transmettre tout ça à la télé, mais il lui... Alors,
sauf que pour Franck, il sait pas que c'est des monstres, Franck. Franck, il pense juste qu'il est rentré dans une banque et qu'il a tué tout le monde.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est que sa réaction par rapport à ce que lui, il sait de Nada, devrait être bien plus excessif que ça. Ça devrait être carrément...
On s'attendrait à ce que, genre, ils lui disent « Mais dégage, je veux plus rien avoir à faire avec toi. »
Voilà, limite appeler les flics à l'instant.
Le balancer aux flics, par exemple. Exactement.
Tout de suite aux flics. Mais ils lui disent simplement « Non, je peux pas te fréquenter parce que j'ai une famille,
c'est trop dangereux. »
Mais il revient le voir quand même après, parce que Nada va chercher les lunettes.
Se retrouvant tout seul, du coup, ouais, il essaye de retrouver les lunettes. Mais là, ce qu'on a quand il essaye d'expliquer à Franck ce qui se passe, on a la même chose qu'avec la meuf avant, c'est-à-dire que sa connaissance, ce qu'il a vu dans les lunettes, l'isole, tu vois, l'empêche d'avoir des relations normales avec les gens. Ce qu'il sait maintenant, l'ostracisme, tu vois. Il est plus capable d'avoir des rapports normaux avec les gens parce que, voilà, nécessairement, quand il explique ce qui se passe, il passe pour un fou. Théorie du complot.
Théorie du complot, brûlé.
Exactement, embûché.
Sur le bûcher.
Et donc voilà, déjà qu'il était tout seul depuis le début du film, là il a encore plus de difficultés à nouer des liens parce qu'il sait un truc qu'il ne devrait pas savoir. Quoi.
Ouais. Mais Franck, quand même, de façon très surprenante, il vient retrouver Nada pendant que l'autre est en train de chercher des lunettes et il lui donne Sa paye d'une semaine. Il est arrivé à négocier avec son boss pour qu'il, pour qu'il ait quand même...
Le peu qu'il a travaillé sera compensé. Effectivement. Ouais. Donc il fait encore un geste de bienveillance de la part de Frank.
Il a un geste de bienveillance de nulle part. Envers quelqu'un dont il sait qu'il a massacré 6 personnes dans une banque quand même. Et donc on se dit, est-ce que lui, comme l'autre tout à l'heure quand il disait je savais que,
Savais que les présentateurs j'aurais dû me douter.
À la télé, j'aurais dû m'en douter. Mm-hmm. Franck, on comprend qu'il sait quelque chose aussi, qu'il a...
Bah, c'est pas forcément qu'il sait. C'est forcément,
il se doute.
Il se doute, mais comme tout le monde. Hein, le truc de « j'aurais dû me douter », pour moi, ça renvoie à une conviction intime que chacun a, tu vois. Tu le sais pas intellectuellement, mais tu le sais viscéralement, qu'il y a quelque chose qui cloche et que ta position n'est pas forcément celle qui devrait être la tienne. Mais le truc, c'est que, comme au début, quand Franck vient lui proposer l'hospitalité... Franck voit quelque chose dans ce mec-là, tu vois. Franck aime quelque chose dans ce mec-là. Et donc revient lui filer sa paye. Par bienveillance, par pure humanité, par pure bienveillance.
Ouais. Par amitié, par amour, peut-être.
Oui, oui, très clairement. Et donc forcément...
Il y a quelque chose qui les unit et qui transcende ce qu'on pourrait à ce moment-là appeler la décence ordinaire. Parce que la décence ordinaire...
Oui, voilà, c'est pas de la politesse. Il vient pas le payer par politesse, tu vois. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Et donc, face à cette gentillesse, venue sortie de nulle part, quoi, Nada décide de lui faire voir. Il se dit, ce gars-là, le seul mec que je connais, il faut que je lui fasse voir. C'est trop important ce qui m'arrive. Et ce gars-là m'a tendu la main à cette fois pour que je lui fasse voir.
Et donc, on arrive à la scène de bagarre, qui est...
Évidemment.
La grande scène anthologique du film qui est, je pense, une des meilleures scènes de bagarre de l'histoire du cinéma.
Ça se défend.
Ça peut se défendre, ouais. Alors, en tout cas, une des qui m'a fait le plus kiffer personnellement. Je l'ai fait voir à un pote qui me disait « Ah non, j'ai détesté parce qu'elle est trop longue et c'est du temps qui aurait pu être utilisé pour développer
autre chose. » Ah, c'est de la mauvaise gestion.
C'est de la mauvaise gestion du temps de la part du film. Mais du coup, il a fallu ensuite que je le convainque que, qu'en fait, cette scène était...
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai pété la gueule et je lui ai mis
les lunettes. Voilà, je lui ai pété la gueule, exactement. Je lui ai pété la gueule après 6 minutes d'âpre combat et je lui ai mis les lunettes qui lui font voir qu'en fait, cette scène est le cœur émotionnel du film et que sans cette scène, qui dure 6 minutes, hein, c'est 6 minutes montre en main la scène de bagarre. Et que sans cette scène de bagarre interminable, en fait, tout le film s'effondre. Et que c'est ça qui tient tout.
Oui,
tout je sais pas l'édifice. Si
tout le film s'effondre, mais en tout cas, c'est une des plus belles représentations de. Comment tu dis pas de l'endoctrinement, c'est pas un bon mot, mais. Le fait que tu veuilles rallier ceux que tu aimes à ta cause.
Ouais. Gros. Et il faut que tu les aimes pour vouloir les rallier à ta cause. C'est ça qui est très intéressant dans cette scène de bagarre, c'est que c'est une scène de bagarre entre deux personnes qui fondamentalement s'aiment.
Oui, on se bat parce qu'on s'aime. Tu viens me donner ma paye et ta gentillesse me donne envie de te péter la gueule, mais pour ton bien, tu vois.
Pour ton bien, exactement. Je dois te montrer que ce qui se cache derrière toutes ces images, je dois te montrer qu'en fait, la source de ton malheur, c'est précisément ce que tu crois être la source de ton bonheur potentiel. Et qu'en fait, tu es manipulé par toutes ces images. Et je veux que tu vois ce que je vois moi, surtout.
Oui. Tu es trop important pour moi pour que je ne te fasse pas voir. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, avant de lui péter la gueule quand même, parce que il n'est pas juste une brute, il lui propose, il lui dit « j'ai trouvé ses lunettes, c'est dingue, mets-les ». Et l'autre lui dit « j'ai pas envie de voir, tu vois. Je veux même pas savoir, ça m'intéresse pas. C'est trop dangereux, c'est trop risqué, ça vaut pas le coup. »
Ça me fait dire qu'il se doute de ce qu'il va voir, encore une fois. Mais il veut pas, il refuse.
Ça l'intéresse pas, c'est trop dangereux. Il a trop à perdre. Le peu qu'il a, il a peur de le perdre, comme tout à l'heure. Il est paralysé. Et donc là, Nada se dit, bon bah...
Voilà. D'abord, je te propose...
Il faut que je l'incite à mettre les lunettes. Donc à se battre.
On commence à se battre, exactement. La deuxième étape, c'est pas encore que je vais lui mettre les lunettes, je vais lui casser la gueule et puis lui demander encore
de
une
mettre
fois
les lunettes. Voilà.
De mettre les lunettes après lui avoir cassé la gueule. Et ça remarche pas. Puisque ça repart sur un cycle de combat, parce que dans les scènes de combat hollywoodiens comme ça, il y a toujours ça fonctionne comme avec des codes comme toujours. Le code en général dans la scène de bagarre, c'est que il y en a un qui a l'ascendant.
Ensuite, ça se renverse.
Voilà, ça se renverse. Le héros qu'on croyait vouloir voir gagner, il est en train de perdre, il est en situation de faiblesse. Et puis là, ça se re-renverse une deuxième fois. Et c'est le héros qui gagne, qui triomphe.
Qui reprend le dessus, voilà, exactement.
Qui reprend le dessus au dernier moment.
Donc voilà.
Et donc là, c'est ça, mais 4 ou 5 fois, en fait. C'est le cycle refait oui, mais la même voilà. chose à chaque fois.
Avec une gradation. C'est genre, la première fois, Nadar ressort vainqueur et lui dit « Mets les lunettes !» Et l'autre, il dit « Fuck you !» Et ça repart, tu vois. On se remet à se battre. Et plus fort encore. Avant, on tapait au-dessus de la ceinture comme à la boxe. Et maintenant, on essaie on vise les couilles. On donne des coups de tête, tu vois. On est un peu plus mesquin, quoi. Et le cycle se répète. Et donc là, c'est Franck qui ressort gagnant. Et là, Nada se met à prendre un bout de bois par terre. Tu vois, une planche ouais. de construction. Et se met en joue. L'autre prend une bouteille. Tu vois, on s'arme, en fait, pour se battre. Et là, les deux se regardent. Et rigolent et se disent, mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait là à s'armer? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et on jette les armes. On se rend compte que, ok, on va se battre, mais on se bat par amour, on se bat pas pour se tuer, tu vois. On se bat avec les poings, on se bat pour se convaincre. Pour moi, c'est une genre de métaphore de.
De la joute rhétorique.
De la joute rhétorique, voilà, du débat d'idées, tu vois, n'est-ce pas?
Alors, ouais, parce que. Non, parce que. Plutôt du débat d'idées que la joute rhétorique, parce que dans joute rhétorique, pour moi, il y a cette idée. Un peu à la Clément Viktorovitch, tu vois.
Ah ouais, bon, d'accord. Pas la joute rhétorique. non, c'est, pas ça.
Voilà. La joute rhétorique, c'est juste un outil, en fait. Et puis, au final, peu importe les idées, c'est celui qui maîtrise le mieux les arguments.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis, ça relève du jeu. C'est-à-dire que je peux avoir n'importe quelle position, pro ou anti. En fait, c'est du jeu. C'est pour montrer que j'ai le plus gros cerveau.
C'est ça, c'est les débats à Sciences Po non, où il y en a un qui prend les républicains.
C'est pas ça.
Il y en a un qui prend les socialistes. Et puis, on prépare les arguments des socialistes. Et puis, au final, peu importe, on peut inverser.
Oui, puisque de toute façon, on est tous d'extrême droite. Mais c'est pas ça là, qui se passe.
Ça, c'est la rhétorique. Ouais.
C'est pas ça là qui se passe. Non, non, non. Là, c'est effectivement un combat d'idées. On essaye de convaincre l'autre qu'on aime, profondément, quelque part, qu'il a tort et que j'ai raison. Mais ce combat-là vaut pas le coup de s'armer, tu vois, taper avec des planches et des bouteilles. Il faut rester intime, tu vois, il faut rester avec ses mains. On se bat avec ses mains. Et donc, ça repart encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'on ait, littéralement, on soit épuisé.
Et c'est interminable.
6 minutes, quoi, c'est long.
Ça nous montre à quel point il faut être déterminé pour...
Exactement, il y a plus... Voilà, c'est ça, il y a plus d'une fois où on pourrait penser que Nada abandonnerait. Il se dit, non, ça vaut pas le coup, tu vois. Là, je suis vraiment mort, je commence à saigner, j'ai la gueule toute gonflée et tout. Il veut pas voir, et ben, qu'il voit pas, cet enculé, tu vois. Non, c'est trop important. Il finit par gagner encore, Franck, et puis jette les lunettes contre le mur. Et là, on pense que le combat est fini, puis Nada revient de par terre, elle plaque par terre, tu vois, il commence à lui péter la gueule encore et encore et encore. Jusqu'à ce que il lui dit bah tu veux pas voir et ben je vais te faire voir. Là j'ai gagné, je te mets les lunettes, je les mets sur toi. Au début il voulait que ce soit lui qui accepte, tu vois, de sa pleine volition, il voulait que ce soit Franck qui regarde. Mais ça marche pas. Alors je vais te faire voir. Je te mets les lunettes. Et évidemment quand Franck voit, bah, lui aussi il est un peu choqué. de ce qu'il voit.
Et donc juste après cette scène de bagarre, il y a la scène qui justifie à mon sens la scène de bagarre, c'est-à-dire que la scène de bagarre de 6 minutes, bon, elle est jouissive, etc. C'est une des meilleures scènes de bagarre de l'histoire du cinéma, tout ce qu'on veut. Mais elle ne vaut rien sans la scène qui va juste après, c'est-à-dire quand on va dans un hôtel, qu'on se pose, qu'on regarde nos blessures, qu'on se regarde l'un en face de l'autre, qu'on regarde les blessures qu'on a, et qu'on s'interroge sur notre condition. Et qu'on se dit, que fait-on ?
Il y a deux choses. C'est qu'on va dans un motel pourri où les gens viennent pour baiser, tu vois, ou payent à l'heure. Donc, on est deux hommes, donc c'est très marrant. Et puis ensuite, on rentre dans la pièce et on se regarde tous les deux. Et il y en a un qui dit, ah, c'est pas beau, l'amour, quand même, tu vois. On parle d'amour, très franchement. Ouais. On s'aime, tu vois. Je sais pas, c'est... Oui, on s'aime. On le fait par amour, ce qu'on est en train de faire. Et donc là, on se demande. On est tout boursouflé, on saigne. On se lave et on se dit, mais alors, mais qui c'est ces décideurs, tu vois, qu'est-ce qu'ils foutent là, depuis combien de temps ils sont là et qu'est-ce qu'on peut faire? On se pose plein de questions, tu vois, et on discute, on se demande, bon, combien de temps ça fait qu'ils sont là? Pourquoi est-ce qu'ils font ça, tu vois? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont réduits à cet état d'esclavage et pourquoi est-ce que c'est si cruel? Est-ce que c'est nécessaire que ce soit cruel? Nada, il sait pas, et l'autre, il dit, peut-être qu'ils aiment ça, hein, nous voir nous mettre sur la gueule. En étant complètement hypnotisé, complètement endormi. Peut-être que ça les amuse. Hein? Peut-être qu'ils se nourrissent de la froideur de nos cœurs.
Mmh. Et donc là, on a un projet révolutionnaire qui commence à... De cette conclusion, enfin de cette réalisation, on a projet révolutionnaire oui. qui commence à germer. Ouais.
C'est inacceptable qu'il nous fasse ça, quoi. C'est pas, c'est... Y a aucun moyen de le rationaliser, si tu veux. Face à l'évidence de cette cruauté et de ce mal, il faut que j'agisse, quoi.
Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le discours rationnel a ses limites par rapport à simplement le ressenti sensoriel de ce que c'est qu'on me fait.
Oui, la dignité humaine, ça s'appelle dans pas mal de cas. Oui, c'est inacceptable.
Et c'est ce qui rend le film aussi, au niveau émotionnel, simplement au niveau de l'engagement du spectateur, c'est ce qui le rend très efficace, c'est que on ne se bat pas simplement pour une cause abstraite, on se bat l'un pour l'autre parce qu'on s'aime en tant que fraternité, on s'aime.
Exactement, c'est très important.
La raison pour laquelle Le Seigneur des Anneaux, qui est une histoire, un film ou un livre sur une... dans lequel il y a une quête qui est a priori très éloignée de nous, voilà, il faut détruire un anneau magique qui contient du pouvoir, et il faut aller dans un volcan, dans une terre fantastique. Bon, a priori, c'est très éloigné de nous, mais ce qui fait que ça nous rapproche, qu'on se rapproche des personnages, c'est à quel point tous les personnages dans la fraternité de l'anneau s'aiment d'un amour inconditionnel. La scène à la fin du troisième film où il y a Aragorn qui est écrasé par un espèce de troll devant la porte noire, et qu'il y a Legolas qui bouscule les soldats pour se précipiter vers lui pour le sauver.
Qui le regarde l'amour. Qui le regarde avec le même regard que le capitaine regarde Ping.
Dans Mulan, montagne. Exactement.
Exactement.
Ce regard amoureux.
N'est-ce pas ?
Fou et perdu.
Tout le monde dit que je suis barjo, paranoïaque. Non, c'est de l'amour. Non.
Je le vois aussi dans ce regard. Oui, ce qui rapproche ces films de nous, c'est l'amour. Oui, et si on fait une comparaison avec d'autres films d'action un peu fantastiques récents, comme par exemple les films Marvel ou les Avengers, on a pareil dans les Avengers une équipe de héros, un espèce de cercle, mais c'est pas tout à fait pareil. On n'a pas exactement.
C'est pas vraiment une fraternité.
C'est pas vraiment une fraternité, c'est plus des collègues de travail en fait.
Des collaborateurs.
Les Avengers, des collaborateurs qui ont une mission entre eux et puis voilà, qui font du coup des blagues qu'on fait au bureau, voilà.
Qui se chamaillent un peu pour le pouvoir, pour être sur le devant de la scène. Personnages qui d'ailleurs ont un truc qui leur manque, c'est leur humanité, tu vois. On parle depuis tout à l'heure d'amour fraternel.
Le point de comparaison, c'est que dans les deux cas, on utilise la violence pour accomplir notre but, mais dans un cas, le cas du Seigneur des Anneaux ou de They Live, on utilise la violence par amour, parce que ce qu'on protège, c'est quelque chose qui nous est personnel, c'est notre propre humanité. Et puis ensuite, si on est des collègues de travail qui avons une mission de maintien de l'ordre dans cet empire américano-terrestre, qu'il faut protéger des menaces extérieures, c'est un...
Les États-Unis de la Terre.
Ce qu'on défend, c'est un édifice, quoi. C'est une institution, c'est pas vraiment...
C'est notre propre grandeur que l'on défend, si tu veux.
Ouais.
Et oui, dans le cas de Delive, on utilise la violence parce qu'elle est inévitable. Parce que si on ne l'utilise pas, on l'utilise sur nous, hein, comme quand on vient raser le corps au début. Je te vois, ta première action, c'est de me tuer. Donc bon, tu ne me laisses pas d'autre choix, si tu veux.
Si tu ne fais pas la lutte des classes, les riches vont faire la lutte des classes.
Ils la font très bien sans toi, hein, toi tu dors.
Ils la font déjà. Ils la font d'autant mieux si t'es endormi.
On a fait tout ce qu'on a pu pour rebosser. Et tu sais quoi? Les patrons se sont remplis les poches. Dans ce monde pourri, il y en a que pour les riches.
Rouler des spartisés, des flashs depuis les heures de colle. Ma vis décale, le son est fat, ici on swing sans club de gold. Comment rester cool, éloigne-toi du parcours et tu prendras du ferme. Tu taffes pour des bourses que tu rembourses à chaque tu fais. Accroché à la 16, y'a pas d'avenir donc t'es HS. Faudrait sortir la chaise pour Zemmour et BHL. Même sans billets, tant que j'ai des pièces, ça va. C'est plus sauvage qu'en pleine savane. Je cours après un taf, alors dites pas que je suis un train de savane.
Alors dites pas, plus ce jeune a le choix d'avoir un taf honnête. Pas que plus pas tout ce qu'on te propose, c'est conduire une camionnette. Alors dites pas que les gens sont les mêmes, c'est pas vrai. Tous égaux à la naissance, c'est bien joli, mais après. Alors dites pas que le racisme a disparu. Trop préjugé dans leur regard, depuis quelques temps j'évite la rue. Alors dites pas que les gens sont les mêmes, c'est pas vrai. Tous égaux à la naissance, c'est bien joli, mais après.
DSRT 2011.
Bon ben voilà, donc le but de la bagarre est accompli, c'est-à-dire qu'on a enfin trouvé un ami qui voit la même chose que nous. Au début, on était tout seul, donc on s'est fait rétamer la gueule quand on était dans la banque. Donc, et puis en plus, c'était pas très utile ce qu'on a fait, parce qu'on a juste tué quelques monstres.
Oui, on n'a pas résolu le problème, si tu veux. On a pris une petite vengeance personnelle, tu vois, une échelle individuelle, effectivement. Bon, ça fait du bien, c'est cathartique. Mais c'est pas suffisant.
Mais là, on a trouvé quelqu'un qui partage son
avec qui
droit,
se battre, oui.
Et on peut ensemble rejoindre la rébellion, donc bah, les gens voilà. En général qui voient ce qu'on voit.
Déjà, à deux, on est mieux que tout seul, on est plus fort que tout seul, mais là, on décide de retrouver l'organisation pirate au début qui n'est pas morte, qui n'a pas disparu. Alors on...
Ouais, qui a ressuscité sous une autre forme après la destruction de son
voilà.
Sa première base. Ce qui nous pousse à penser que, encore une fois, oui, c'est une organisation souterraine qui doit nécessairement s'organiser de façon asymétrique par rapport au pouvoir, c'est-à-dire avec des
réseaux, c'est la résistance. C'est la résistance.
Furtif, comme dirait Alain Damasio, ouais.
Ouais, c'est le maquis, c'est des saboteurs. Et donc, quand on arrive dans le QG de la résistance, de la rébellion, si tu veux faire Star Wars, on se rend compte qu'il y a des mecs qu'on a croisés avant dans le film, qui, eux, sont tombés sur une paire de lunettes.
C'est ça.
Dont la meuf qu'on a pris en otage au début. Elle, ouais. Elle est là, comme nous,
oui,
elle a
parce
vu.
Que, exactement, comme elle a vu la même chose que nous à travers les lunettes qu'on a implantées dans sa maison, qu'on a laissé.
Oui, par mégarde, mais qu'on
tête,
a fait quand même, voilà, exactement.
Ouais, ce qu'on a fait quand même, exactement. Et donc, ça a germé, quoi. C'est-à-dire que petit à petit, il lui a fallu du temps, il a fallu d'abord qu'elle réagisse d'une autre manière, mais. A priori, on a l'impression que ça a fonctionné.
En tout cas, elle se retrouve au même endroit que nous pour faire la même chose que nous, c'est-à-dire on est en train de discuter d'un plan, de la stratégie ultime, quoi, le dernier coup, où on nous explique qu'ils nous contrôlent par les ondes, qu'on est tous hypnotisés et qu'on dort à cause de la télévision, très précisément. Mm-hmm. Qu'il existe la source, il y a une source du signal qui se trouve dans les studios de télé ou la meuf. De manière pratique, travail, et que c'est de là que tout part. Et donc, vu qu'on n'a que quelques flingues et des grenades, et que c'est pas avec ça qu'on va reprendre le pouvoir institutionnellement, ouais. il est mieux de couper le signal. Voilà. On va faire un truc stratégique, on va aller couper le signal, et on va réveiller tout le monde brutalement. Sans savoir comment ça se passe après, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tout le monde se réveille. Ouais. Qu'importe la réaction qu'on aura après.
Et qu'importe si, peut-être, potentiellement, après, du coup, c'est peut-être pire.
Ça peut être pire, ça peut échouer, ça peut
donner des conséquences qu'on n'attendait pas, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire le truc pour que tout le monde découvre la vérité. Et ensuite, c'est dans les mains de la détermination populaire, quoi.
C'est dans les dés, c'est dans Dieu, c'est dans l'univers, après, advienne que pourra. Mais ce qui compte, c'est que si on n'est pas réveillé, de toute façon, il va rien se passer, donc autant qu'on se réveille tous, c'est l'idée.
Et il y a un truc qui est très intéressant que dit l'espèce de Slavoj Žižek, je crois.
Non, Slavoj Žižek, il a disparu, il est mort. On le voit qu'à la télé. C'est l'autre, c'est le, je sais pas, appelons-le le capitaine, quoi. C'est le mec qui organise les troupes, qui file des flingues aux femmes et aux enfants, ouais. Tu vois, et qui leur dit, bon...
C'est le Che Guevara, le Ho Chi Minh de...
Ah, Che Guevara, il réussit sa mission et après il se casse. Lui, ça va pas être aussi cool pour lui. Mais oui, c'est le mec qui organise, quoi. C'est celui qui reste.
Mais il dit un truc intéressant, c'est... à la télé, on nous prend pour des communistes. Mmh. On nous prend pour des gauchos. Et c'est intéressant, ça, puisque on aurait... Alors, John Carpenter, qui lui-même est un... peut-être pas un communiste, mais un gauchiste illustre, quoi.
Mmh. Oui, mais ça... Voilà, ça met le doigt sur plusieurs choses. Premièrement, que dans cette société de gens qui dorment, le communisme, bah, c'est l'ennemi qui est tout près. Hein. On est quand même en pleine guerre froide aux États-Unis. Bon, c'est la fin de la guerre froide, mais ça reste la guerre froide. Donc c'est l'ennemi qui est tout près. Il y a tout un discours qui est déjà fait sur lui. Il a déjà tout un, comment t'appelles ça, un caractère shit, tu vois. Il a déjà des caractéristiques, des points de compétence, tu vois. Il est déjà tout défini, donc c'est pratique.
Ouais.
Mais ça met aussi l'accent sur le fait que effectivement notre mouvement n'est pas le même que les communistes, n'est pas idéologiquement similaire. Nous, notre idéologie, ou en tout cas notre pensée, elle est bien plus simple, quoi. On voit les monstres, on tue les monstres. Ça s'arrête là. T'as pas besoin de plus que ça pour rejoindre la cause.
On constate que les monstres nous font du mal mm-hmm. et on se rebelle contre ce mal.
Et exactement, ça va pas plus loin.
Ton obédience, anarchiste, communiste, l'important c'est de se rassembler avec les gens qui voient la même chose que toi.
Il y a des léninistes, des trotskistes, des stalinistes, tout le monde est là. On est tous dans la même salle.
Mais bon, on les laisse pas en tout cas faire leur révolution, qu'elle soit trotskiste ou on sait pas quoi, puisque de toute façon les flics vont attaquer et tuer tout le monde.
Oui, bon, juste avant quand même, on on nous file la dernière invention donc de cette cellule terroriste, hein, littéralement c'est terroriste maintenant. Mais, ouais. Ils ont upgradé les lunettes et ils en ont fait des lentilles de contact. Maintenant tu peux les avoir sans, ouais. Sans qu'on voit que tu portes les lunettes.
Bon, ça, je soupçonne que c'est avant tout une astuce de mise en scène pour pas faire porter, pour qu'on voit, en fait, pour qu'on voit le visage des.
Oui,
des,
ça des peut être ça, mais ça peut être aussi ça peut être intéressant de penser que c'est pour ne pas qu'on voit que tu vois. Quand tu portes les lunettes, c'est t'es vrai. Cramé. Quand ouais. tu portes les lentilles, on voit pas que tu vois. Donc, tu restes caché, si tu veux. Tu utilises les armes de l'ennemi. Tu restes caché parmi la masse. Tu fais semblant d'être endormi, n'est-ce pas?
Mais les flics attaquent quand même et tuent quand même tout le monde.
On est en plein discours, les mecs arrivent, les flics arrivent, en ordre militaire, premier rang s'agenouille, on ouvre le feu, on bute tout le monde. Ouais, on massacre tout le monde, les femmes, les enfants, on bute tout le monde. Et on est surtout, on voit les flics, on voit pas leur visage, on voit leur casque blanc et leurs armes, mais on voit qu'ils sont, ils ne sont pas atteints par la violence terrible qu'ils exécutent, tu vois.
Ouais.
Ils restent impassibles, alors que c'est un massacre, tu vois. On voit les résistants tirer quelques balles dans leur direction, mais pas un seul flic ne meurt. Par contre, tous les résistants
même, pas un seul flic ne fait, ne serait-ce que tressaille, quoi.
Non, ils bougent pas, exactement.
Tout à fait
exactement.
De marbre, ouais.
Exactement, c'est, pour le coup, voilà, c'est, encore une fois, c'est unilatéral, comme on dit alors asymétrique, là, c'est unilatéral. Tous les résistants se font massacrer, sauf nos deux personnages principaux, Frank et Nada, qui, par un miracle... En bidouillant une des montres qu'on avait piquée à un alien, on arrive à se téléporter.
Et on se téléporte directement dans la base des décideurs.
On arrive au QG, voilà. On arrive au QG, alors, des,
QG
décideurs.
Des décideurs. Et alors, il y a quelque chose qui est intéressant à dire, c'est que cette base, on pourrait s'attendre à ce que ce soit une espèce de... comme l'étoile noire de Star Wars. Une espèce de château, de citadelle inaccessible... ou dans lequel il y aurait un trône avec un empereur, quelque chose comme ça. Mais en fait, non, c'est pas une citadelle, c'est pas un...
Non, et c'est la deuxième révélation, si tu veux. La première révélation, c'est quand tu mets les lunettes, tu te rends compte que tout le monde est endormi. Là, t'arrives au QG, et tu te rends compte qu'en fait, le QG, c'est comme un grand salon des actionnaires, des investisseurs, tu vois. Il y a un banquet, genre de festin à l'américaine, où genre, tout le monde est habillé en costume, en tuxedo, voilà, en robe de soirée, et puis on est en train de bouffer, et il y a un mec qui fait un discours et qui dit, ah voilà, vous remarquerez que vos comptes en banque ont augmenté de 39% cette année, c'est une très belle année, une très belle réussite. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que, voilà, l'ordre des décideurs, c'est un ordre économique, et qu'on mesure sa performance, pas par l'accroissement total du capital, mais par le gain personnel, individuel de chaque investisseur, de chaque mec présent dans la salle. Et on se rend compte, effectivement, comme tu disais, que c'est pas juste un salon, c'est en fait un aéroport. C'est un lieu de transit.
C'est un hub de transit. Ouais. Ben, en fait, il y a des grands couloirs où on imagine qu'on se déplace avec des petites voiturettes, tu sais, comme dans les militaires.
Des caddies de golf, ouais.
Et puis, voilà, il y a ce portail intergalactique où les mecs, avec leurs valises, tu vois, leur attaché caisse, se déplacent. Donc, on imagine que c'est d'une plateforme à une autre et qu'en fait, c'est simplement un hub dans lequel transitent les capitaux.
C'est un lieu de transit. C'est un lieu de transit de capitaux humains et autres. Mais oui, effectivement. C'est juste un lieu de passage pour les flux.
Donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de citadelle comme... voilà, si tu es un paysan au Moyen-Âge et que tu sais que ceux qui viennent te voler ta plus-value, ils l'amènent dans le château, tu vois. Tu sais où est le château. Et puis, devant le château, il y a des murs qu'il faut, du coup, percer ou enjamber. Mais tu sais, en tout cas, que ton fric... et que le lieu du pouvoir, il est là. Le fric qu'on te vole...
Il est dans les caisses, dans le château.
Et ceux qui viennent te faire du mal, ils viennent du château, et c'est là qu'ils crèchent. Donc tu sais où attaquer. Mais là, en fait, tout le flic, les flics, le fric, tout ça transite entre les différents hubs, et donc il n'y a pas de lieu centralisé dans lequel...
Non, exactement.
On peut venir tout piller, quoi.
Oui, et l'autre gars aussi, quand il fait son discours, il dit un truc intéressant, il dit qu'il prévoit qu'en 2025, la domination sera totale, tu vois, de ce nouveau système économique sera totale pour le monde.
Ouais, et sur toute la Terre, c'est-à-dire on sait qu'ils contrôlent déjà tous les États-Unis, et ils vont s'apprêter à contrôler tout le monde. Et
du coup, il dit que le signal émet sur toute la planète, mais que toute la planète n'a pas encore été conquise à ce nouveau modèle économique, n'est-ce pas?
Ouais.
Ce qui est intéressant.
Il reste quelques endroits, comme par exemple Cuba, Vietnam, ou certaines parties de la Russie, je sais pas. Quelques endroits tout à fait...
Il reste des lieux non conquis, tu vois, mais que l'expansion ça est bien partie. On nous promet, voilà, de belles retombées, quoi, pour nos comptes en banque individuels, encore une fois. À ce dîner, il croise un type qui devient le représentant, en fait, des humains traîtres. Lui, c'est un humain, mais qui s'est accommodé du fait qu'il bosse avec les monstres.
Ouais.
Et quand les mecs lui disent...
Le confronte sur son idéologie, quoi.
Non, pas vraiment, parce qu'ils sont cachés, tu vois. Ils font croire qu'eux-mêmes sont des traîtres. Ils le laissent parler, parce qu'évidemment, il est très arrogant, et il parle de sa situation. Et il leur dit un truc que moi, j'aime bien, c'est « It's just business, boys. » Il n'y a plus de bons gars, de mauvais gars. C'est les décideurs qui contrôlent tout, maintenant. Tout ce qu'on peut faire is make a little money, you know. Juste faire un peu d'argent. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus que le fric. Bien sûr, les mecs, ça les convainc pas.
Non, ils ont toujours envie de tout péter.
Ils sont pas... Ça les a pas calmés, si tu veux. Ouais. La promesse de la richesse ne les a pas calmés. C'est étrange.
Mais on constate qu'il y en a certains que ça calme, en tout cas.
Oui, que lui, par exemple, lui, ça l'a tout à fait convaincu. Qu'avoir une grosse maison, un gros compte en banque et bien manger, ça lui suffit, si tu veux. Ça lui suffit à rationaliser l'horreur.
Qui c'est qui disait que le problème des États-Unis, c'est que la masse des prolétaires ne se voit pas comme prolétaires, mais comme des milliardaires potentiels qui n'ont pas encore obtenu les moyens.
C'est des millionnaires à l'époque, parce que ça commence à dater, il n'y a pas de milliardaires avant.
Ouais.
Mais c'est des millionnaires temporairement dans l'embarras.
Voilà. C'est qui dit ça déjà?
C'est John Steinbeck, fameux écrivain de Raison de la colère, n'est-ce pas?
C'est John Steinbeck, ouais.
Oui.
Ok. Et donc...
Le problème de l'existence d'une conscience de classe aux États-Unis, c'est que les prolétaires pensent qu'en fait, ils ne sont que des millionnaires temporairement dans l'embarras, que leur condition va changer, et que d'exploiter, ils deviendront exploiteurs. Forcément, ça empêche toute organisation. Mm-hmm. Et ce mec en est une belle représentation.
On est l'incarnation, ouais, c'est celui qui l'incarne à l'écran. Et donc, bon, on n'est pas content, on finit par se faire cramer, donc on fait un grand massacre dans les couloirs
non.
De ce...
D'abord, on charme le mec et on lui dit « Ah, mais tu veux pas nous faire visiter la base, et tu veux pas nous faire visiter le studio de télé, tu vois ?»
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est ce qu'on cherche, on cherche la source du signal, tu vois, et le mec lui dit « Ah oh, bah, j'imagine que ça peut pas faire de mal, vous êtes nouveau, je vais vous montrer, quoi. » Et donc, il les amène au studio de télé, et là, effectivement... On se met à massacrer tout le monde.
Ouais.
Là, effectivement, on tire à vue sur tout ce qui bouge. Alors, on a les lentilles de contact, mais on ne voit pas, nous, en noir et blanc. On ne sait pas qui est un humain, qui ne l'est pas. On tue tout le monde. Là, on n'a plus le temps pour la nuance, si tu veux.
Ouais, nous, les spectateurs, c'est ça. Ouais.
Nous, les spectateurs, et puis nous, les personnages aussi. Hein. C'est comme dans la nouvelle, il dit un truc assez marrant. Il dit, bon, c'est regrettable, mais pour arriver à la source du signal, il a dû passer par-dessus 20 ingénieurs, tu vois, qui étaient tous des hommes. Mais il les bute quand même, c'est regrettable. Donc on tue tout le monde. C'est dommage, voilà.
On finit par arriver à la source du signal. Et donc
on monte sur le toit.
Voilà. Petit twist final, on se rend compte qu'en fait la meuf chez qui on avait laissé les lunettes et qui bossait à la télé, elle aussi c'est une sociale traître, elle a fait un compromis avec les décideurs.
Voilà, elle aussi elle a accepté que, comment tu dis, son gain en matériel personnel suffit à rationaliser l'horreur collective.
Et donc elle tue Frank,
oui.
juste avant que Nada arrive... en face de l'antenne.
De la source du signal, voilà.
Et elle finit par blesser Nada, puis qui arrive à la tuer également.
Tu l'as vu,
et donc il sort, voilà, en sortant le tout petit flingue qu'il avait dans sa...
le plus petit flingue du film.
Le plus petit flingue du film, ouais. Qu'il avait dans sa manche. Mm-hmm. Il la tue avec, et il se retourne contre l'antenne, et il arrive à tirer sur l'ampoule.
Il dit « fuck it ».
Détruire, voilà.
Il dit fuck it parce que là il y a un hélicoptère de la police qui arrive et qui se met à le flinguer.
Ouais.
Mais avant de mourir, en se sacrifiant, il tire sur l'antenne et il coupe le signal.
Oui, et puis il fait un petit doigt d'honneur, le dernier point sur sa gueule, c'est qu'il fait un petit doigt d'honneur à l'hélicoptère. Et là dans le commentaire audio, c'est pareil, c'est que les Carpenter et l'acteur, ils sont pas d'accord. l'acteur, il dit ah, je suis pas content de ce petit doigt d'honneur que j'ai fait. Il aurait dû être droit et érect, tu vois. Un vrai bon doigt d'honneur, bien droit.
Bien dru, bien droit.
Il fait, non, c'est exactement ça que tu devais faire. C'est exactement ce petit doigt d'honneur, genre, Just fuck you guys. Just fuck you guys.
Pas en pleine érection, voilà. Un petit doigt d'honneur.
Non, je trouve qu'il est beaucoup plus marrant. Je sais pas ce que l'un signifie particulièrement par rapport à l'autre, mais le petit doigt d'honneur comme ça, bah, je trouve beaucoup plus drôle, en fait.
Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son dernier acte de rébellion, de dissident, ce petit doigt d'honneur, c'est aussi son sacrifice pour la cause. Il meurt, mais pour détruire la source du signal. Et il y arrive. Le dernier plan du film, c'est dans une chambre de motel, une prostituée.
Alors oui, juste avant, on se rend compte que tous les présentateurs télé, du coup, ils apparaissent avec
le signal est coupé.
Le visage est coupé. Et puis il y en a un qui dit quand même, franchement, tous ces films contre-culturels.
Ah oui, exact.
Par exemple, de George Romero ou John Carpenter, mm-hmm. sont parfaitement abjects.
Oui, c'est débilisant.
Ils sont dangereux. Ils sont débilisants.
Ils nous rendent bêtes, n'est-ce pas? Ils endorment nos consciences. Ils ne nous font pas réfléchir. Effectivement. Avec leur tête de monstre. Et oui, donc le dernier plan du film, pardon, c'est on se retrouve dans un motel où on a une femme par-dessus un homme en train de faire l'amour. Et la femme remarque que le mec est en fait un des décideurs, un des monstres, mm-hmm. et commence à le regarder avec de drôles de yeux. Et ça finit sur lui qui dit What's wrong, baby? Et qui se rend compte qu'il va mourir.
Et qui, du coup, en fait, n'arrive même plus, est arrivé à un tel stade où il se considère comme l'être universel, tu vois.
En tout cas, comme caché. Je sais pas s'il se considère comme humain. Parce qu'il y a quand même un moment dans le film où un des décideurs dit à Nada, ouais, mais vous avez l'air aussi moche pour vous qu'on a l'air moche pour vous, pour nous, ou l'inverse, je l'ai mal dit. Mais bon, vous êtes aussi moche que nous le sommes.
C'est ça, mais moi, le c'est pas forcément qu'il se voit comme un humain, mais c'est qu'il se perçoit comme un être universel. Le propre de l'idéologie dominante, comme on a dit, c'est de ne pas se percevoir comme idéologie. Et le propre de l'individu dominant, dans une société, c'est de ne pas se percevoir comme individu dominant, mais de se percevoir à la place comme...
Ouais, comme individu normal. Ouais.
Comme individu normal, exactement.
Mm-hmm. Ouais, ouais.
Et donc le fait qu'il n'arrive pas à se voir à travers les yeux de l'autre est la dernière expression de ça. C'est que le fait que le signal tombe, c'est avant tout une surprise pour lui. C'est moins une surprise pour les humains que c'est une surprise pour lui.
Oui.
Le fait que tout le monde voit... Mais finalement, comme on disait, on s'en doutait bien en fait.
Que quelque chose
clochait. Qui ressemblait à ça, que quelque chose clochait. Donc mm-hmm. c'est moins surprenant pour ceux qui commencent à voir que pour lui qui voit qu'il est perçu en tant que tel. En tant que monstre et en tant que décideur.
Oui, et donc le signal est coupé, oui, c'est important quand même dans la chambre d'hôtel, il y a une image. Au mur, mais qu'on ne verra pas puisqu'elle apparaît juste comme marie-toi et reproduis-toi. Tu vois. Mm-hmm. Tout est révélé. Et le film s'arrête avant qu'on voit la réaction de la femme, mais bon. Je me permets d'imaginer qu'elle ne sera pas une réaction d'effroi, mais plus une réaction de violence.
Mais oui, surtout, le film s'arrête avant qu'on constate les effets de la révolution, parce que, encore
une
fois,
c'est pas important.
Ce qui est important, c'est qu'on fasse la révolution, qu'on organise ce réveil collectif.
Qu'on soit tous réveillés, qu'on soit plus sous l'hypnose. Oui, c'était ça le but du truc. Et ça a marché.
Donc la guerre, la révolution, ce qui va se passer après, c'est pas important. En tout cas, c'est pas ce qui devrait nous intéresser en premier lieu. Ce qui devrait nous intéresser, c'est que tout le monde se réveille.
Il faut d'abord se donner les moyens de la faire, n'est-ce pas, cette guerre, cette révolution. Et c'est plus important que comment on la fait et où est-ce qu'on va après. À débattre de ça, on remarque qu'on finit paralysé, comme le pauvre Franck, à juste ne rien faire et à rester endormi.
Voilà, ça c'est ma chanson que j'ai écrite pour faire trembler tous les gouvernements du monde. On est perdu, on croit plus rien, même les vieux ils ont capté qu'en fait notre président c'est pas lui qui dirige vraiment, que nos vrais chefs c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. C'est pour ça, droite ou gauche, et ben non ça reste à droite. Tout le monde sait qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Mais ma mère elle a capté que la crise n'existe pas, c'est l'avancement de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Tout le monde a compris que les infos ça sert juste à nous faire peur en nous montrant la merde des autres. Qu'on se contente de la note. Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux,
construisez vos piscines en fermant nos usines. Mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Servez-vous dans nos frigos, nos impôts c'est déjà cadeau. Mais faites-nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire en rien. Même les gamins dans les écoles demandent qu'à croire cette histoire que si au pays des barbus y en a qui nous veulent pas du bien, c'est juste à cause d'une religion. Et donc ça n'a aucun lien avec les militaires qu'on leur envoie régulièrement pour leur bien.
Bon, alors en guise de conclusion, on va aborder quelques notions qui nous paraissent importantes. Première notion, on va partir de l'idée des lunettes. Dans la plupart des œuvres qui parle de complot, de manipulation, comme 1984, ou d'un système qui serait totalitaire, dans lequel il y a du secret d'État, en fait. On a toujours cette figure, cette idée, ce symbole du voile. C'est-à-dire qu'on nous voile la vérité. On met quelque chose entre nos yeux et la vérité. Dans 1984, c'est, je crois, la cloison de l'appartement de Winston qui, en fait... Derrière la cloison, il y a les gens qui surveillent avec une caméra. Il y a l'œil de Big Brother. Et donc, il faut faire tomber la cloison pour voir la vérité. D'habitude, c'est comme ça qu'on représente le mensonge, le simulacre et le dévoilement. Et là, dans ce film, c'est pas que c'est l'inverse, mais c'est un peu plus compliqué, parce que les lunettes, c'est pas un dévoilement, c'est pas quelque chose qu'il faut enlever pour mieux voir, c'est quelque chose qu'il faut mettre devant les yeux. Pour mieux voir.
Pour pouvoir regarder, ouais.
Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a déjà quelque chose d'assez subversif, là, c'est que c'est une chose à laquelle on n'est pas habitué. On nous dit, le film nous dit qu'en fait, pour mieux voir les choses, il ne faut pas se débarrasser des voiles, des filtres qui sont en face de nos yeux, il faut en mettre d'autres.
Il faut en rajouter, ouais, exactement. Comment dire ? Oui, donc les lunettes, c'est un filtre, en fait, qui te permet d'analyser correctement, pour le coup, ce que tu vois. Oui, l'idée de Zizek, c'est que les lunettes, c'est l'idéologie. C'est ça que tu essayes de dire.
C'est ça, oui. Les lunettes, c'est l'idéologie. Et donc, en fait, pour mieux voir l'idéologie, il faut se rajouter de l'idéologie. Il ne faut pas s'enlever de l'idéologie.
Non, déjà, alors, voilà.
Il faut pas essayer de voir les choses sans idéologie.
Il y a deux concepts de base. C'est que, bon, on a tendance à utiliser de manière colloquiale idéologie comme étant justement le voile, tu vois, ce qui te fait voir pas correctement les choses. Ce qui est évidemment pas la façon dont on entend le mot là tout de suite, tu vois. Donc, au contraire, l'idéologie, c'est ce qui te permet de voir correctement les choses. Le deuxième truc qu'il faut dire, c'est que le gars qui te dit que lui, il est hors de l'idéologie, c'est un mec qui est tellement dans l'idéologie qu'il a oublié qu'il l'était. Personne n'est hors de l'idéologie.
C'est le gars à la fin sur le lit qui n'arrive pas à se rendre compte qu'il est perçu comme un monstre par les autres.
Exactement. Personne n'est épargné par l'idéologie.
L'idéologie est le mode d'appréciation de base du monde. On ne peut pas avoir une vision du monde qui ne soit pas idéologique.
Oui, ou alors t'es mort. Mais parce que là, tu vois rien. Oui.
Tu vois rien, c'est ça.
Exactement. Bah,
c'est-à-dire qu'il y a un personnage dans le film qui est un aveugle. C'est-à-dire qu'il a dû s'enlever ses yeux pour mieux voir.
Oui.
Il voit mieux sans ses yeux. Il a dû s'enlever les filtres. Donc, parfois, en fait, il faut enlever des filtres. Parfois, il faut en ajouter. Les ondes qui sont projetées et qui hypnotisent tout le monde, ça aussi c'est un filtre. Donc parfois il faut enlever les filtres, parfois il faut en mettre, mais en tout cas, dans tous les cas, il y aura des filtres.
Oui, il y a toujours une idéologie, il y a toujours un mode d'appréciation de la réalité pour la construire.
Qui est nécessairement subjectif.
Il n'y a pas de regard neutre. Personne n'a un regard neutre, objectif, scientifique sur les choses. Les scientifiques eux-mêmes ont leur propre biais, n'est-ce pas ? Ils sont humains. Ils regardent les choses à travers... Généralement, plus ils portent des lunettes, ces bâtards.
Ouais, ils regardent, ils regardent les microbes à travers un microscope. Donc, ils sont bien obligés de s'ajouter des outils. Donc, toutes ces choses sont des outils, en fait. Les lunettes, les lentilles, le réseau...
Le signal pirate.
Des ondes. Tout ça sont des outils au service d'une ou l'autre des idéologies. Et ça ne sert à rien de vouloir toutes les enlever pour tout dévoiler.
Oui, on ne voit plus rien, en tout cas. Ouais. Ça, c'est sûr.
Moi, on a fait un master d'anglais ensemble, Antonin, Manon et moi. Et moi, ma spécialité, c'était la traduction. C'est là-dessus que j'ai fait mon mémoire. Et quand on étudie la traduction, on a en général ce préjugé que la traduction est un voile qui est mis entre le lecteur et ce qui serait une l'œuvre originale, l'intention originale de l'auteur, qui serait nécessairement une vérité révélée, et qu'en traduisant, on ne ferait rien d'autre que masquer, voiler, trahir. Ce qui est vrai, mais dans ce cas, n'importe quelle lecture d'un texte est une trahison ou un voile, parce que n'importe quelle lecture d'un texte...
Dès que tu vas interpréter différemment le texte, tu vas trahir le texte.
Dès qu'il y a interprétation, il y a trahison dans ce cas, c'est ce que ça voudrait dire. Donc voilà, ça n'a pas de sens de vouloir enlever tous les voiles. On a nécessairement des voiles, et parfois, la traduction, typiquement, c'est un voile qui aide les gens qui ne parlent pas la langue du texte original à mieux le comprendre.
Ou à le comprendre tout court, si tu ne parles pas la langue, tu ne peux pas le comprendre.
Donc mieux le comprendre que quand on ne le comprend pas, exactement. Donc parfois, la première chose que ça nous apprend, c'est que parfois il faut s'ajouter des filtres, il faut s'ajouter des façons d'appréhender le monde différentes de notre façon qu'on imagine à tort comme la façon native et neutre et pure.
Exactement. Ouais, sachant que juste à un niveau biologique, j'avais vu un truc là-dessus, mais ton cerveau est en permanence en train de filtrer ce que tu vois. Sûr. Il paraît que tu vois les vaisseaux sanguins dans ton œil et que c'est ton cerveau qui les supprime. Tu vois ce que je veux dire, donc.
Ouais,
il y a déjà des filtres qui sont mis à l'œuvre avant même que tu te mettes à interpréter.
Exactement.
Donc bon, cette idée de du regard pur, ouais, on la retrouve effectivement dans l'histoire d'horreur où les mecs, pour mieux voir, s'arrachent les yeux. Effectivement. Mais bon.
L'autre question, c'est la question du masque. Alors, on va un peu rejoindre le truc, c'est que les décideurs, quand on les voit avec les lunettes, on les démasque, mais dans la façon dont le film est réalisé, en fait, on leur met un masque. On a l'impression de les dévoiler, mais en fait, ils ont un masque posé sur leur visage. Et c'est un peu la même chose. Parfois, le masque, le fait d'ajouter un masque sur une chose, le fait de l'indiquer comme artificiel, ça nous permet de mieux le voir.
L'identifier correctement, ouais. Le film te dit quand même que, avant de comprendre, il faut regarder. Il ne faut pas juste voir, il faut regarder. Et il faut regarder comme Nada, c'est-à-dire avec la curiosité et puis, comment tu dis, avec perspicacité. Il faut être attentif.
Et donc parfois, le fait d'artificialiser les choses, dévoiler pour mieux masquer, le fait de mettre un masque... Dans le commentaire audio, Carpenter il dit... On s'attarde jamais trop dans un plan sur les masques. Quand on a un masque de décideur en gros plan, en général, on coupe vite parce que sinon, on s'aperçoit que tout le masque est artificiel. Effectivement, le masque techniquement, est très grossier. Il est un peu ridicule. Si on le regarde pendant longtemps, on va finir par le trouver ridicule. Mais justement, le fait d'artificialiser le signe du monstre permet en fait de le voir beaucoup plus clairement et beaucoup plus... avec beaucoup plus de vérité.
Après, moi, je trouve que c'est important que le masque soit un peu grossier et ridicule, puisque le monstre, quand tu le vois, comme Nada au début dans la papeterie, il n'est pas censé t'inspirer de la peur. Au contraire, tu t'en moques. Ils ont l'air moches. À la fin, dans le studio, quand le signal est coupé, il y a un des ingé-sons qui dit « Ah, mais vous avez l'air de ça, moi, je me casse, tu vois. » Il n'a pas besoin d'en savoir plus. Juste, il voit à quel point ils sont moches. Et ça lui suffit pour se barrer.
Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça dans la façon dont nous, jeunes podcasteurs débutants, qui avons pour ambition de faire de l'interprétation d'œuvres de la culture populaire, qu'est-ce que ça nous apprend sur notre activité, en fait, d'interprétateur.
Interprétateur, ça te va, ça?
Ça va, les interprétateurs?
Je sais pas pour nous, mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que le film fait un truc que j'aime beaucoup avec ce genre de film, c'est qu'il fait la mascarade. Lui aussi met un masque. Il prétend être un film d'action, un peu bourrin, pas très subtil hein, pour le coup. Et en fait, il te fait réfléchir des choses assez profondes et qui ont des conséquences assez...
Assez vertigineuses pour toi, ouais.
Assez vertigineuses, exactement. Donc déjà, il y a ça, il y a le truc de rajouter un masque. Par-dessus le film qui te parle de lutte des classes et d'exploitation, tu mets le vernis du film de science-fiction, complot, action, avec le catcheur, avec les gros bras, tu vois. Tu endors la méfiance, pas de celui qui le regarde, nécessairement plus de celui qui le produit.
Oui, je pense aussi, pour trouver les fonds quand même.
Ce qu'il dit de nous, enfin, c'est pas forcément de nous en tant que podcasteurs, c'est plus nous en tant que spectateurs, parce que ça, c'est un boulot que... C'est pas un truc que, une poignée de gens doivent ensuite diffuser aux autres, c'est un truc que tu dois faire tout seul, tu vois. Les lunettes, c'est quand même un équipement individuel, tu vois, il y a une paire par personne. C'est à toi de mettre les lunettes quand tu regardes le film, d'être attentif.
Les lunettes, c'est ce que tu dois prendre du film et rapporter chez toi une fois que tu sors de la salle. Une fois que tu sors de la salle, tu peux pas simplement garder le souvenir du film ou garder le souvenir que t'as passé un bon moment parce que le film était très divertissant. Il faut que tu ramènes les lunettes à la maison.
Voilà, oublie pas les lunettes chez la meuf. Pas avec les lunettes.
Et que tous les films que tu vois maintenant, il faut mettre les lunettes. Il faut peut-être aussi être capable de les enlever par moment, puisque comme on a dit, parfois il faut mettre des filtres, parfois il faut enlever des filtres. On ne sait pas, il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Mais il faut se mettre à regarder tous les films avec les mêmes lunettes.
Voilà. Bah, et en tout cas, tu peux pas... Il ne s'agit pas juste de voir le film, il faut le regarder encore une fois. Il faut l'analyser, l'interpréter, le comprendre. Le sens n'existe pas.
Il ne faut pas être passif devant un film. Il ne faut pas considérer que c'est au film de faire tout ton travail d'interprétation
à
ta place. Non,
exactement. Mais le film ne fait aucun travail d'interprétation. Il n'y a que toi qui peux le faire. Le film, il te montre des trucs... Et c'est à toi de les comprendre.
Et donc, contrairement à une vision de l'art, donc comme on disait avec le sens original de l'œuvre originale pure et non faussée, devant laquelle l'idéologie serait simplement un dévoiement.
Une erreur.
Voilà. L'idéologie, l'idée selon laquelle l'idéologie serait une erreur d'interprétation dans laquelle il ne faudrait pas tomber, un piège, d'accord ? C'est les profs de français qui parle surtout des pièges de l'interprétation. Attention, il ne faut pas tomber dans les pièges quand tu fais ton commentaire de texte pour le bac. Là, c'est un film qui te dit non, tu es tout à fait en droit de regarder le film avec tes lunettes et c'est à toi de lui apporter ce que tu veux qu'il te dise.
C'est ce qui est assez réussi dans le truc des décideurs ou des fascinateurs, c'est que tu peux voir dans ces monstres toute forme d'organisation de l'oppression, tu vois. Moi, j'adore le fait que, justement, les nazis voient les preuves du complot juif dans ce film. Toi et moi, on y voit les preuves d'un autre complot.
Peut-être pas d'un complot, mais d'une organisation de la société qui est telle que...
Ça ressemble à une arnaque pyramidale quand même, ça ressemble à un genre de complot.
Pas une arnaque pyramidale auquel tous les participants auraient consenti, mais simplement qu'on accepte parce qu'on est endormi, parce qu'on ne l'a pas vue telle qu'elle est,
parce qu'on fait que voir, qu'on ne regarde pas, parce qu'on est endormi, pendant qu'eux ils vivent. C'est inacceptable.
Et donc, c'est un film qui nous apprend que quand on va sur les forums de cinéma ou des sites de cinéma dont on ne citera pas le nom, mais dont chacun.
Qui apporte l'importance au sens et à la critique.
Au sens et à la critique, exactement, par exemple. Et qu'on arrive avec ces lunettes-là. On est exactement comme John Lada. Quand on arrive et qu'on dit non, les films c'est fait pour être interprétés, les films c'est pas simplement l'intention d'un auteur démiurge tout puissant.
Et c'est surtout tu as ta place, tu as ton mot à dire et c'est toi qui crée le sens. Et bien là, bizarrement, tu passes pour un genre de fou maniaque,
malade, de fou furieux, dangereux, surtout.
Schizophrène,
qui est,
paranoïaque.
Qui est dans la surinterprétation.
Oui, ça c'est mon mot préféré.
C'est que tu interprètes trop. Il faudrait que tu interprètes un peu moins. Donc, comme avec Greg Guillotin, ce qu'on avait dit dans l'épisode 3, c'est qu'en fait, quand on a peur que les choses soient mal interprétées ou qu'elles soient surinterprétées, en fait, on a peur qu'elles soient interprétées, tout court.
Interprétées, tout court, exactement.
Et ça, c'est un film qui nous dit non, il faut interpréter. De toute façon, tu n'as pas d'autre choix que d'interpréter. Donc, soit tu interprètes avec tes propres moyens, soit tu reprends contrôle de tes propres moyens d'interprétation, soit tu fais en sorte que simplement l'interprétation soit faite à ta place et que du coup...
C'est pas qu'elle soit faite à ta place, parce qu'encore une fois, il y a que toi qui peux la faire. Mais soit tu choisis de mettre les lunettes d'Hoffman, tes lunettes qui te permettent de comprendre, soit tu les regardes avec les lunettes de base que tu auras quoi qu'il arrive, tu vois.
Et qui donc tu vas les regarder seront avec... les lunettes distribuées à tout le monde, qui seront les mêmes lunettes que tout le monde.
Celles qu'on te donne, celles qu'on te donne pour endormir ta méfiance... Pas de pensée originale, pas de pensée, reste endormi, soumets-toi, obéis, tu vois. Celles qui te cachent tout ça. Celles qui te font croire qu'il y a un truc qui s'appelle la surinterprétation.
Et celles qui, du coup, endorment ton individualité, c'est-à-dire que ton interprétation, ce sera la même que celle de tous les autres. Et si elle dévie par rapport à celle de tous les autres, c'est là que ça devient dangereux. Et c'est là que tu sors du rang, et c'est là qu'il faut t'éliminer, en fait. Qu'il faut t'éliminer du discours.
D'une manière ou d'une autre, oui, exactement.
Donc, notre ambition, avec Arbre Mécanique, en fait, c'est d'organiser un mouvement interprétatif contestataire,
C'est de faire passer des lunettes.
De faire passer des lunettes à tout le monde, de s'organiser dans des petites caves derrière la façade de l'église.
Derrière des fausses églises, voilà.
Et voilà, pour rallier les gens à notre cause, pour s'unir avec des gens...
Ou juste,
ce qu'on voit.
Même sans aller aussi loin, pour que tu redeviennes celui qui fabrique le sens et que tu te sentes ni coupable ni mal de le faire. Il y a ça, et puis le film te dit aussi quand même, moi j'adore, c'est le graffiti qu'on voit au tout début, c'est que l'art est une de ces formes de contestation, oui. Tu vois. Le film, la musique ou tout ce que tu veux est une des formes de transmission de ces idées dissidentes. Alors que tu vas masquer, camoufler s'il faut les faire produire, tu vois, mais que tu vas quand même les mettre dedans et tu vas quand même les distribuer. Et tu les distribues pour ça, pour que ces idées-là, elles passent.
Et c'est très important, ça, de le faire entre amis, entre gens qu'on aime.
Oui, si tu comprends des trucs, si quand tu vois le film et que tu mets des lunettes, tu le comprends pour toi, c'est bien. Mais il faut que tu le fasses comprendre aux autres aussi. De le comprendre pour soi, c'est pas suffisant. Il faut partager, il faut transmettre ça.
Antonin, est-ce que tu veux qu'on aille faire un attentat suicide dans les locaux de France Télévisions ? Ensemble ?
J'ai pas encore trouvé le téléporteur, tu vois, pour échapper au massacre. Mais pourquoi pas, oui.
Bientôt, on le fera. Mais avant ça, on a d'autres épisodes à produire quand même, avec Manon qui nous rejoindra à nouveau.
Qui nous manque.
Tu nous manques.
Qu'est-ce qu'elle nous manque.
Reviens-nous vite.
On voit bien que sans elle, c'est pas pareil.
Sans
quand
elle,
même.
C'est pas pareil. Ah.
C'est pas pareil.
Plus personne ne nous écoute à cette heure, je pense. Parce que tout le monde veut Manon. Tout le monde veut avoir Manon.
Ah bah oui, évidemment. J'aurais juste une petite recommandation, une nouvelle de Philippe Dick encore et toujours, qui s'appelle The Hoodmaker. Je trouve pas de titre en français, mais Le Faiseur de Chapeau, Le Chapelier. Nouvelle de 55, que si vous arrivez à trouver, je vous conseille de lire. Ça parle un peu de ça.
Bon, bah tu n'en diras pas plus pour ne pas briser le suspense de nos auditeurs.
Ah, ça fait 10 pages, on va pas ruiner 10 pages.
En tout cas, voilà, si ça vous a plu, on vous donne rendez-vous pour d'autres interprétations.
D'autres surinterprétations,
oui, parce que ici...
Riche en idéologie.
Ici, on surinterprète et on en est fier. Et si oui. La surinterprétation, c'est le coût de l'interprétation, eh bien c'est un coût que nous sommes prêts à payer. Nous préférons risquer de dire n'importe quoi en surinterprétant.
Plutôt que de fermer notre gueule.
Fermer notre gueule en interprétant. Pas, cet épisode d'Arbre Mécanique est maintenant terminé. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram, ou bien partager cet épisode s'il vous a plu, sur YouTube ou la plateforme de podcast de votre choix. À bientôt pour de nouvelles surinterprétations.